Nintendo Master. Bonjour et bienvenue dans le 16e podcast de légende pour une saga de légende. Alors je sais pas si le podcast sera de légende, hein, on verra ça.
On s'en verra, ouais.
Mais donc pour m'accompagner dans ce périple à travers Hyrule, Crayo est là. C'est le Crayo, ça va bien?
Ça va bien toi?
Ça va très bien.
Impatient de toucher Skyward Sword.
Ah oui, très très impatient, j'ai pas encore eu la possibilité d'y jouer. Mais quelqu'un a pu y jouer d'ailleurs, et alors c'est un nouveau dans le podcast. On souhaite la bienvenue à Bibi. Salut Bibi, ça va bien?
Bah ça va bien, et toi?
Ah bah très très bien. Alors toi, oui, t'as pu goûter à Skyward Sword?
J'ai pu y goûter, ouais, pendant quelques heures déjà.
Ah, tu nous en parleras tout à l'heure, hein. Oui, parce que alors, si vous avez pas encore compris, je pense que c'est assez clair, hein. On va parler de Zelda et de la saga Zelda en général. Ça va être le gros de ce podcast. Mais pas seulement, puisqu'évidemment on va parler des titres de la semaine. Et il y a une grosse sortie sur 3DS.
Oui, faut pas l'oublier non plus, celui-là on parle beaucoup de Zelda. Mais Super Mario 3D Land est également de sortie aujourd'hui.
Voilà, on aura tes premières impressions, Crayo. Il y aura évidemment les questions des membres. Et on finira évidemment en jeu. Mais avant de commencer, je voulais simplement revenir très rapidement sur le dernier podcast qui était consacré
aux gameuses,
hein, comme vous le savez. Et vous avez été nombreux à nous faire remarquer, et on en est vraiment désolé de ne pas avoir parlé de Samus, qui est,
ouais,
quand même
la honte à nous quand même.
Ah ouais, non, quand c'est vrai qu'on
une grosse héroïne de chez Nintendo quand même, hein.
Exactement, et peut-être même la première héroïne du jeu vidéo.
Du jeu vidéo en entier, je sais pas. En tout cas de chez Nintendo.
Ouais. Ouais. Donc un peu à l'opposé des caricatures que c'est vrai qu'on a fait de Peach et de Zelda, enfin qui sont souvent en tout cas des princesses à sauver et qui... Donc voilà, mea culpa. Mais allez, on va essayer de faire mieux cette semaine et on commence tout de suite avec les news. Et on va être très rapide sur les news parce qu'évidemment, hein, vous l'imaginez, on va être assez conséquent sur le reste du programme. Donc première news, Crayo, Ninja Gaiden.
Oui, donc Ninja Gaiden 3 qui avait été annoncé à l'E3, il me semble, sur Wii U, sortira pour le lancement de la console, donc mi-2012, fin 2012, on sait pas trop encore, mais voilà, c'est certain, ce titre sortira avec la console, mais ça sera bien évidemment en retard par rapport aux consoles HD qui verront le titre en février prochain.
On reste avec la Wii U, avec toi Bibi.
Oui, donc on revient à l'E3 dernier, quand Nintendo a annoncé la Wii U et a déclaré que la console n'accepterait qu'une seule mablette et que le reste des joueurs devraient se contenter du combo Wiimote Nunchuk ou peut-être du pad classique, mais on n'a pas de confirmation à ce niveau-là. Et ça vient d'être annoncé d'une source proche de Nintendo, apparemment que deux mablettes seraient en fait acceptées par la console, ce qui donnerait un bon coup de fouet aux multijoueurs, je pense.
Ah oui, clairement. Ça, c'est une bonne nouvelle, ouais.
Mais moi, je veux juste revenir sur l'annonce à l'E3. Il me semble que les développeurs et Nintendo, enfin plusieurs personnes de chez Nintendo se contredisaient. Alors oui, elle acceptera plusieurs mablettes. Non, elle n'acceptera qu'une seule mablette. Donc voilà, c'était flou.
Voilà, je pense qu'à cette époque, c'était encore flou. Ils n'étaient pas sûrs de s'ils pouvaient faire ça techniquement ou pas. Maintenant, apparemment, après quelques mois de recherche et development en plus, ce serait possible.
Oui, enfin... Ça reste une petite rumeur quand même.
Ça reste encore une rumeur.
Allez, pas de jaloux, on va aussi parler de la 3DS, Crayo.
Oui, on a eu le trailer de lancement du prochain Layton qui sortira dans une semaine sur DS. Et à la fin de celui-ci, on a pu voir les développeurs mettre un petit message subliminal disant que l'Europe serait servie avec l'opus 3DS qui est sorti au Japon cette année dès la fin de l'année 2012.
Fin d'année,
ils mettent 2012, mais on sait très bien que ça va être la fin d'année.
Vu le passif de la série en Europe, je pense aussi, oui.
Voilà, sauf grosse surprise évidemment, mais en tout cas, Layton 3DS, Masque des Miracles, il me semble, sortira en 2012 chez nous.
Allez, il est temps d'attaquer la saga Zelda, et autant dire qu'on a beaucoup de choses à dire, forcément.
Gros morceau.
Puisqu'il y a évidemment beaucoup de jeux. On va essayer donc d'être à la fois exhaustif sans être trop long. Dans un premier temps, on va revenir sur les épisodes 2D. Et à commencer évidemment par le premier The Legend of Zelda, qui s'appelait The Legend of Zelda et qui est sorti sur NES.
En 1986, voilà.
Alors,
c'est ça.
Alors, en 86, ma date de naissance. Bon, ouais, 36-15, on s'en fout.
Tu as 35 ans. 15, my life.
Exactement, voilà, je fête en même temps... je fête mon anniversaire en même temps que la saga Zelda. Alors, qui veut revenir sur ce premier épisode? Bibi, est-ce que tu as quelque chose à dire dessus?
Alors, déjà, je ne l'ai pas connu à l'époque. Je l'ai connu grâce aux rééditions GBA, hein, les rééditions NES qu'il y a eu.
Ah oui, les fameux classiques, c'est
voilà,
ça?
Voilà, les classiques NES, ouais. Et donc, j'ai pas pu entrevoir tout ce qu'il avait offert à l'époque aux joueurs, quoi, c'est-à-dire une aventure longue sur un univers immense qu'on n'avait pas forcément dans les jeux en 80. Mais c'est quand même le Zelda qui a posé toutes les bases, hein. Les donjons à chercher, l'exploration, la découverte.
Bah c'est marrant parce que je suis vraiment dans le même cas que toi et je pense qu'on est beaucoup en fait à ne pas avoir connu ce Zelda à sa sortie, forcément. Bah, puisque
un
86,
peu jeune encore, ouais.
Effectivement, sortie, ouais, ça aurait été un peu compliqué pour moi également. Mais moi je trouve que c'est le premier jeu qui a offert un environnement aussi vaste, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
En 86, il n'y avait pas de jeu de cette trempe-là et. Bah ça a annoncé un nouveau genre de jeu vidéo. Ouais.
C'est vrai. Mais en le découvrant, je sais plus quand est-ce que j'ai joué la première fois, mais je crois que c'était sur la réédition GameCube, lorsqu'il y a eu le fameux Zelda collector.
Oui, le pack avec Mario Kart. Là.
Et en y jouant, c'est extrêmement dur. J'ai trouvé le jeu extrêmement dur. Et puis alors surtout, aujourd'hui, on est tellement assisté dans les Zelda.
Enfin, oui, bah oui.
On se souvient tous de Navi qui nous gueule à l'oreille toutes les 5 secondes ce qu'il faut faire. Là, on ne sait absolument rien. On est lâché dans Hyrule et démerde-toi, hein, vraiment.
Non, c'est vrai, on donne même pas d'indication pour avoir la première épée. Si on pense pas aller dans la grotte, bah, on va se faire défourailler de tous les côtés.
C'est clair. C'est...
En sortant dans la campagne, puis les temples à trouver.
Ah,
alors
oui,
des fois, faut brûler un buisson parmi les dizaines qu'il y a dans
ah,
le
oui,
jeu.
Exact.
Et là, il y a un donjon qui apparaît. Ouais, et tu sais même pas si c'est le premier ou quoi.
Hein. C'est ça, ouais,
à un moment, j'avais réussi à le trouver. C'était le 8e. Je me suis pris une claque en entrant dedans.
Mais d'un côté, est-ce que c'est pas bien ça, franchement? C'était... Moi je trouve que c'est une très très bonne idée de faire ça.
Et je pense qu'il y a peut-être un juste milieu entre
voilà,
être
un
oui,
juste
oui,
milieu
paumé,
parce que c'est vrai que ça peut décourager, mais c'est vrai que quand même cet aspect découvert de vraiment tout essayer, parce que là il fallait brûler chaque buisson pour voir s'il n'y avait pas un secret,
puis,
ou péter chaque mur pour essayer de trouver des secrets.
Puis tomber dans le 8e donjon d'un seul coup alors que t'as même pas fait le
premier. Voilà, c'est ça.
C'était,
après tu dis yes, j'ai trouvé un donjon, puis tu vois en haut level, temps. Et que t'as rien, t'as pas d'équipement, t'as pas de vie, enfin bref.
Ouais, c'est vraiment ce sentiment-là que je partage, c'est clair. Je trouve que c'est vraiment un jeu hardcore finalement. Hein.
Ouais, pour l'époque, ouais.
Donc c'est vrai que pour les puristes qui veulent les jouer aujourd'hui, qui veulent découvrir la saga, les origines de la saga, ça reste un jeu évidemment très intéressant, mais il faut s'accrocher. Hein.
Il faut s'accrocher. D'ailleurs, faut noter que c'était le premier jeu à proposer une pile de sauvegarde pour reprendre
vrai.
Sa partie. Bon, à un point donné, hein, on pouvait pas reprendre là où on avait laissé sa partie. Et que ça aide quand même, hein, parce que si on devait se farcir le jeu d'une traite comme beaucoup de jeux de l'époque, personne n'y serait arrivé. Hein.
C'est clair, ça aurait été impossible. L'année suivante sort la suite de ce jeu, alors sur la même console, hein, toujours sur NES, The Legend of Zelda, The Adventure of Link, bizarrement assez différent. Bibi, tu as joué?
Alors j'y ai joué, c'est mon tout premier jeu vidéo, hein, j'y ai joué quand j'avais 3 ans.
Ah oui,
pas
d'accord.
Le meilleur jeu pour commencer, hein, surtout pour un enfant.
Et, hi-up.
bah, surtout le 2 qui est réputé pour avoir une difficulté redoutable. Et c'est le vilain petit canard de la série en gros, hein, parce qu'il a essayé de changer les codes. Comme il n'y avait eu qu'un épisode, il n'y avait pas vraiment d'héritage à porter au final. Et il propose des phases en scrolling horizontal quand on est attaqué par des ennemis ou quand on est dans les villages. Et ça a vraiment choqué les joueurs de l'époque qui espéraient voir une suite dans le même style que le premier. Il y a tout un système d'expérience aussi, il a un côté vraiment RPG, on peut augmenter sa barre de vie, de magie, on a justement des sortilèges qui utilisent des points de magie, tout ça. Et le jeu a été recalé à cause de sa difficulté assez horrible, les ennemis ont qu'une idée en tête, c'est vous ôter la vie et ils y arrivent tout le temps. Il y a des trous mal placés, enfin vraiment c'est le Zelda du désespoir en gros pour beaucoup qui n'ont pas pu arriver jusqu'à la fin.
C'est vrai que c'est un peu un ovni, on n'a plus jamais vu ça, on n'a plus jamais vu de progression en deux dimensions. Bon, même si c'est vrai, la carte du jeu restait
quand même en isométrique, ouais, de vue du dessus, mais c'était pas comme le premier, on pouvait pas y faire grand chose à part casser des rochers.
D'accord, mais tu es parvenu à le finir quand même.
Je l'ai fini, alors clairement pas quand j'avais 3 ans, hein, j'ai encore racheté l'édition classique NES.
C'est là que
j'ai pris une revanche sur le petit être que j'étais à l'époque, et sur mes parents aussi qui ont joué, c'est eux qui m'ont initié à la NES et qui ne l'avaient jamais terminé. Donc voilà, j'ai pris cette revanche, je l'ai quand même terminé, il est très dur, mais je pense qu'il est très intéressant, et c'est dommage que Nintendo, après avoir vu que les joueurs n'avaient pas suivi, ait évincé toutes les idées qui auraient pu être bonnes pour les prochains Zelda, en fait.
Ouais, donc si on peut résumer les deux Zelda de la NES, c'est qu'ils sont ultra compliqués.
Bah ouais, je pense que c'est l'époque qui veut ça, hein. Les ennemis, on leur donnait qu'un but, c'était tuer, c'était pas se cacher ou essayer d'attendre pour que le joueur les frappe, c'était ouais, eux, ils vraiment... arrivent, ils te tuent et puis c'est point. Hein.
Pas vraiment d'intelligence artificielle,
non,
c'est
voilà,
clair.
C'est ça, ouais.
En même temps, on était en 1986. Ouais,
on pouvait pas demander grand-chose et je pense que les joueurs n'en attendaient pas plus, hein, de toute façon.
Alors il faudra attendre 4 ans pour goûter un nouvel épisode qui sortira cette fois-ci sur la console suivante de Nintendo, la Super Nintendo. A Link to the Past, alors ça y est là, on commence, ça va être commence plus proche de notre génération pour les joueurs qui ont la vingtaine un peu comme nous. Alors A Link to the Past finalement fait un peu abstraction d'Adventure of Link du deuxième épisode et reprend les bases du premier.
Ah, il fait même pas un petit peu abstraction, il reprend tout du premier en améliorant sur différents points. C'est là qu'on a la structure quasi finale des donjons, avec le système de clés, d'énigmes et tout ça qu'il n'y avait pas dans le premier. Le premier c'était surtout des salles de monstres à tuer qui t'offraient le passage pour les suivantes. Et là on a vraiment les bases du jeu qui se posent, les différents objets qui peuvent interagir sur tout l'univers d'Hyrule, les temples, l'aspect exploration encore... Et un scénario plus poussé surtout, parce que bon, le premier c'était sauver Zelda, point, crédit de fin, alors que là il y a vraiment une trame qui débute, qui a une fin, qui se développe, et je pense que c'est ça qui a marqué les joueurs, entre autres.
C'est quand même, bah, il a beaucoup marqué les joueurs, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même le Zelda, enfin un des Zelda préférés de la saga, enfin un des Zelda préférés des joueurs, après Ocarina of Time, donc on entend souvent parler de A Link to the Past. Et donc voilà, à mon avis, il a marqué les joueurs d'une manière assez importante.
Surtout qu'en fait, ça a été le premier, je ne vais pas dire de bêtises, non mais c'est ça, qui a inclus l'idée de dualité dans l'univers, chose qu'on retrouvera finalement dans quasiment tous les Zelda après. Donc il y avait le monde de la lumière, le monde des ténèbres, qui fait d'ailleurs étrangement écho de manière à Twilight Princess. Hein.
Un petit peu quand même.
Twilight Princess
un petit peu
vraiment
beaucoup,
clairement inspiré.
Ouais, puis aussi un petit peu moins, mais Ocarina of Time quand même, avec les 7 ans en avant, et on retrouve le monde un peu changé quand même.
Exactement, hein. Et puis Wind Waker, alors attention, spoil si vous ne l'avez pas fait, mais la surface de l'eau est sous la surface de l'eau.
Aussi, oui,
enfin, il y a toujours ça, une dualité dans l'univers. Puis, dans Link to the Past, on retrouve pour la première fois le village Cocorico.
Des gros classiques, des musiques aussi.
Exactement.
Justement, du village Cocorico qui reviendra régulièrement dans la saga et ce genre de choses-là.
Je pense que tu t'en parlais, mais l'aspect scénario, je pense que c'est peut-être une des choses qui a fait que tout d'un coup il y a eu un affect vis-à-vis de ce jeu. Il y a vraiment eu une immersion, puisqu'on se souvient tous de cette introduction du jeu qui est assez sensationnelle, où Link se réveille à un orage terrible, il va jusqu'au château, finalement c'est vrai, en plus on sauve la princesse Zelda dès le début du jeu, peut-être en une demi-heure.
C'est vrai, en plus c'est pas la finalité de l'aventure en fait, c'est qu'un passage. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a tout un côté mise en scène qu'il n'y avait pas dans les autres épisodes, et c'est ça vraiment je pense qui a marqué les joueurs, c'est de se retrouver dans des situations, dans des moments de bravoure comme ça qu'il n'y avait pas avant et qui a vraiment marqué la plupart.
Ça a été un peu le tournant de la série.
Je pense, ou en tout cas celui qui a donné les grosses bases de ce que deviendra la série plus tard, ouais.
Alors on va faire un gros saut dans le temps, puisque on va jusqu'en 2004 pour trouver un nouveau Zelda 2D. Mais il est d'une certaine façon lié à Link to the Past, puisque c'est à l'occasion de la réédition de Link to the Past sur Game Boy Advance, qui est sorti Zelda Force Words, enfin en tout cas la première édition. Alors édition d'ailleurs que, évidemment, pour les 25 ans de Zelda, on a pu retrouver gratuitement sur le DSiWare et la console virtuelle de la 3DS.
Bah, je vais prendre.
Bah oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup parlé, Cryo. Mais...
Un petit mot sur Force World quand même. Donc, moi je trouve que. Il a apporté la dualité des personnages. On parlait de la dualité des mondes, mais là c'est surtout des personnages. Donc voilà, on est quatre. Et ça permet de faire plusieurs. Enfin, d'étoffer les énigmes en faisant faire d'autres actions aux autres personnages qu'on ne joue pas ou qu'on joue de manière alternée. Et ça permet de donner un souffle nouveau à la saga qui se cantonnait à un seul joueur à un seul genre à chaque fois. Et moi, je trouve que on reviendra dessus après, mais je trouve que Spirit Tracks, qui est sorti sur DS en 2009, c'est totalement inspiré des énigmes et de la façon de faire de Force World, car c'était franchement un copier-coller de cet épisode. Donc voilà, moi j'ai vraiment aimé cet épisode. Il apportait vraiment quelque chose qu'on ne trouvait pas avant dans la série. Donc voilà, Force World à ne pas oublier dans la saga.
On te le dit, hein, on a tendance, c'est vrai, à un peu le mettre de côté. Et c'est un peu le cas sur GameCube où le jeu aura une édition. Donc c'est pas un remake, hein, c'est vraiment un jeu séparé, Force World Adventure sur GameCube. Et finalement, c'est vrai que ce jeu, encore aujourd'hui,
il marche pas tellement parce que en soi, le jeu est fait pour être joué à plusieurs en fait. Et le problème, c'est que Nintendo a toujours voulu privilégier soit d'avoir plusieurs consoles, je crois que c'était comme ça sur GameCube.
Exactement, il faut avoir des 4 Game Boy Advance.
Voilà. Après, il y a eu l'épisode avec A Link to the Past, c'était un peu tôt, je trouve, tôt dans les années. Et puis le remake sorti sur 3DS qui ne prend pas le mode online, je trouve ça vraiment stupide. Ça permet pas de populariser Force World, qui est pour moi un très très bon Zelda, très très court également, mais qui a quand même amené des choses nouvelles et que peu de Zelda le font en ce moment, j'ai envie.
Est-ce que vous pensez que la saga évoluera donc avec d'un côté les épisodes normaux et d'un autre côté les Force World? Est-ce qu'on peut s'imaginer des nouveaux Force World finalement sur les prochaines consoles?
Moi je pense à la Wii U, avec la possibilité d'avoir plusieurs mablettes, on en parlait dans les news, si ça se fait vraiment, si on peut en avoir deux, même plus, ou jouer avec les Wiimotes, je sais pas, une façon comme ça de le réadapter sur Wii U, ou de sortir un épisode totalement nouveau à la manière de Force World. Je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment très bien avec la mablette et la Wii U.
Alors avant d'attaquer la suite des jeux sur console de salon, on va revenir sur les jeux sur console portable. Et à commencer évidemment par un épisode qui revient souvent dans le cœur des joueurs, Link's Awakening sur Game Boy, qui est sorti après A Link to the Past, 2 ans après, en 1993. Alors messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Vous y avez joué?
Alors moi oui, j'y ai joué, alors je sais plus exactement en quelle année, mais ça devait être à l'époque Game Boy à peu près.
Pareil pour moi, et c'est même le premier Zelda que j'ai touché, que j'ai joué sur Game Boy, et malheureusement c'était une entrée en matière un peu difficile à vrai dire. Alors pour une raison qui est indépendante du jeu en lui-même, hein, mais dans laquelle j'avais joué 10 ans, peut-être un peu moins. Et c'est un ami qui l'avait, et qui me l'avait prêté, mais il avait la version UK, donc la version anglaise du jeu.
Ah oui, forcément.
Et je peux vous assurer, bon déjà encore aujourd'hui je suis peut-être pas un pro de l'anglais, mais alors à l'époque autant dire que je comprenais mais pas un seul mot, et du coup je pense que je suis vraiment passé à côté du jeu.
Ah, pour Zelda ouais, c'est un peu compliqué.
J'ai évidemment jamais réussi à le terminer, j'ai dû faire peut-être les 2-3 premiers donjons et compliqué. Je savais même pas, à vrai dire, que le jeu était existait en français. Hein. Je savais même pas. J'avais même pas du tout qu'il y avait une traduction quelque part. Hein.
Non, puis surtout qu'en plus, cet épisode intègre un univers complètement différent. C'est fini Hyrule, on est sur l'île Cocolint, si je ne m'abuse. Fini Zelda, fini Ganondorf. Désolé pour le spoil, mais avec 15 ans de péremption quand même. Et on se retrouve vraiment dans un univers unique, avec des personnages qu'on ne verra plus après dans
Marine.
La saga. Comme oui, Marine.
Qui a marqué les esprits. Hein,
oui, bah oui.
Ça reste un des personnages clés de la saga finalement.
Non, mais Marine, on la revoit pas après dans la saga. Hein.
Ouais, ouais, non, ouais. Enfin, quand je dis personnage clé, c'est. Enfin, oui, c'est des personnages dont on a apprécié le souvenir. Bon, voilà, je m'enlise complètement, mais vraiment, c'est pas grave. Puis il faut remettre dans le contexte de l'époque. C'est vrai que une cartouche Game Boy, c'est quelques centaines de kilo-octets. Enfin, aujourd'hui, on prend une photo.
Ouais, c'est très peu, quoi.
Enfin, de faire tenir une telle aventure et un tel contenu dans une cartouche Game Boy, sur une console portable, de proposer une aventure finalement qui rivalise d'une certaine façon avec A Link to the Past sur Super Nintendo.
Oui, et qui rivalise surtout avec les derniers épisodes sortis sur console portable. C'est ça qui m'impressionne encore aujourd'hui, c'est que vraiment, à l'époque, sur une console à 2 boutons monochrome, avec, comme tu as dit, seulement quelques centaines de kilo-octets par jeu, on arrive à créer une aventure aussi riche, aussi profonde, scénaristiquement, musicalement, et que à côté sur les épisodes DS, bon, après ça c'est un avis personnel, mais je trouve que on n'atteint pas cette qualité là malgré la 3D, le nombre de couleurs, les contrôles tactiles, tout ce qu'on veut. Moi j'ai pas retrouvé encore un jeu portable Zelda qui rivalise avec celui-là. Après c'est un
d'ailleurs
avis personnel.
Enfin, incorporé finalement dans la variété de gameplay, finalement il y avait déjà ça avec la pêche et le mini-jeu, tu sais, avec le truc à attraper et tout.
Oui, oui.
Il y avait puis ça dans Link to the Past?
Non.
Il y avait pas tellement de mini-jeux.
Non, il y avait pas dans Link to the Past. Il y avait des jeux, mais c'était à la con, c'était genre t'as trois coffres, tout, ouais. Tu perds.
Donc finalement, chose qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans les Zelda dernière génération, avec une variété comme ça de situation, enfin de gameplay, de jeu dans le jeu en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Les à côté en fait de l'aventure, de quêtes annexes, on peut dire, annexes, même voilà. Si voilà.
C'est ça. Et preuve que ce Zelda a beaucoup marché, c'est que il a été réédité, je crois, en 1997, enfin à la fin des années 90. Donc Link's Awakening. DX
sur, c'est ça, ouais.
Sur Game Boy Advance, et donc c'était exactement la même aventure.
Game Boy Color.
Donc voilà, c'était exactement le même jeu avec un petit donjon en plus, si je me souviens bien, qui basait
sur la couleur. Ouais.
Voilà, qui basait ça sur les nouvelles capacités de la nouvelle Game Boy. Donc preuve que ce Zelda a énormément marqué les joueurs, et il me semble qu'il va également arriver sur 3DS, sur l'eShop.
Il y est déjà arrivé.
Il y est déjà. voilà.
ce Zelda Link's Awakening sera d'une certaine façon décliné à travers deux autres jeux sur Game Boy Color cette fois-ci, puisque ce sera exactement le même moteur graphique, vraiment le même design. Donc les fameux Oracle of Season et Oracle of Ages. Enfin, au niveau prononciation anglais, vous voyez, hein, c'est pas exceptionnel.
Il y a pire.
Deux jeux complémentaires. Alors, vous avez joué ou pas?
Moi, pas du tout. J'y ai pas touché.
Très, très peu à l'époque, et je n'avais pas accroché, en fait. Alors, est-ce que c'était dû au fait que, justement, le jeu, c'était une première, n'était pas développé par Nintendo lui-même, mais par Capcom? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas accroché, donc c'est vrai que je peux pas en dire grand chose, à part qu'il reprend, c'est vrai, le pattern visuel en tout cas de Link's Awakening. Mais pour le reste.
Déjà, ça, je trouve ça fait bizarre d'avoir deux versions à la Pokémon, quoi.
C'était un peu Pokémon, ouais, c'est vrai.
Et... Sauf que là, disons que c'est deux jeux différents et vraiment différents. C'est-à-dire qu'on retrouve pas les mêmes lieux, on retrouve pas les mêmes personnages. C'est deux aventures complètement distinctes, alors que Pokémon, c'est vrai,
ouais,
que
c'est peut-être ça qui lui a joué des tours, avoir deux aventures différentes.
Peut-être. Je crois même qu'à la base il y en avait
une
troisième.
Il devait faire une troisième pour faire la Triforce, justement.
D'accord.
Mais ouais. L'idée a pas abouti parce que peut-être que ça aurait trop perdu les
gens. Je pense que le titre n'a pas eu le succès espéré, surtout. Je pense que c'est pour ça qu'il
s'est
pas.
Surtout ça, je pense.
Mais en tout cas, dans le concept, c'est vrai que c'était plutôt intéressant. Pour trouver une logique, c'est-à-dire qu'on pouvait commencer par n'importe quel jeu, vous pouvez commencer par Oracle of Ages ou Oracle of Season, et en fait, à la fin du jeu, on vous donne un code, et quand vous commencez celui d'après, vous entrez le code, et du coup, le jeu intègre le fait que vous avez fini le précédent. Alors je parle de mémoire, donc je vais peut-être raconter des conneries, mais il me semblait que du coup ça modifiait le jeu, donc ouais. On commençait peut-être avec des objets ou des cœurs en plus. En tout cas, je sais que le jeu était modifié, en gros le second jeu était modifié pour prendre en compte la première quête et pour faire finalement une histoire continue et finir avec un boss final pour les deux jeux.
Le truc, c'est qu'il fallait acheter les deux jeux pour avoir l'aventure complète, on va
c'est
dire.
C'est sûr, mais en soi, un simple jeu se suffisait. Et on retrouve, comme on disait tout à l'heure, hein, cette dualité Oracle of Ages où on avait plusieurs âges dans lesquels on se baladait, et Season où on se baladait à travers les saisons, forcément qui faisait modifier l'univers. J'en garde un bon souvenir, honnêtement, même si c'est vrai... le meilleur Zelda, et même s'il est peut-être pas au niveau de Link's Awakening, mais sincèrement, en tout cas, moi qui ai fait Ages et qui l'ai fini, j'en garde un très bon souvenir. Je me suis beaucoup amusé sur ce Zelda avec beaucoup de personnages, un scénario plutôt bien développé. Non, franchement, Capcom a bien relevé le défi, je trouve. Un bel épisode. Et preuve en tout cas que Nintendo a priori a bien apprécié le travail de Capcom, c'est Capcom toujours qui se charge du prochain épisode sur portable, sur Game Boy Advance, qui ne connaîtra d'ailleurs qu'un épisode original. The Minish Cap, épisode dans lequel Link se retrouve tout petit. Vous y avez joué? Crayon me fait signe que non.
Non, je n'y ai pas joué.
Ah, mais moi non plus, hein, j'avoue que j'ai pas joué. Bibi, tu as joué ?
Alors j'y ai joué, je l'ai fini aussi. Bon, que dire si ce n'est qu'il s'éloigne vraiment de ce qu'offrait Link's Awakening et Oracle of Ages et Seasons. Et même s'il ne m'a pas marqué autant que Link's Awakening, j'en garde quand même un bon souvenir parce qu'il offrait vraiment des idées un peu nouvelles, justement. Le chapeau Minish qui permettait de devenir Rikiki et de voir le monde d'une nouvelle façon.
Mais est-ce que du coup ce Zelda ne reposait finalement que sur cette nouveauté de gameplay est-ce qu'au niveau aventure
Alors au niveau aventure il proposait ce que les Zelda ont toujours proposé. C'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment d'innovation de ce côté là c'est toujours exploration, quête annexe ici et là et donjon. Après il a apporté bien sûr ses nouveaux objets propres à cet épisode et ce genre de choses, mais il n'a pas révolutionné la série, et c'est peut-être pour ça qu'il a d'ailleurs pas eu un succès très retentissant comparé en tout cas au remake de A Link to the Past.
C'est vrai que même encore aujourd'hui, hein, Minish Cap reste un Zelda finalement qui a été un peu mis dans l'ombre. Hein,
On voit beaucoup de remake, enfin de réadaptation sur les nouvelles consoles ou sur les services de téléchargement. Et The Minish Cap, il passe complètement à travers. Quoi. Il a eu aucune réédition. Peut-être que c'est dû à son jeune âge parce qu'il est sorti en 2004. Donc voilà.
Peut-être raison alors pour laquelle Capcom a finalement été mis de côté pour le développement des jeux suivants, où Aonuma va prendre le relais. Le réalisateur de Wind Waker, dont on parlera un peu plus tard, réalise le prochain épisode sur console portable sur DS, c'est Phantom Hourglass, qui est d'ailleurs une suite directe à Wind Waker.
Ouais, très inspiré même, j'ai envie de dire.
Exactement, et puis alors, premier Zelda, où les boutons, c'est fini. Jouable entièrement au tactile, vous en gardez un bon souvenir ou pas?
Excellent souvenir. J'ai trouvé ça. Enfin, diriger Link avec son petit stylet, faire les petites roulades nous-mêmes, c'était vraiment sympa. Après, je mettrais quand même un petit bémol sur les combats qui étaient assez. On va pas dire simple, enfin, simple dans la manière de faire, quoi. Il n'y avait pas 36 000 techniques comme on peut le voir dans les Zelda 3D. Donc, j'ai pas trouvé ça hyper prenant. Mais le tactile ne m'a vraiment pas dérangé.
Alors, si on parle que du tactile, j'ai aussi été assez conquis. Hein. Le maniement de Link est fluide. Les mouvements viennent naturellement. Bon, alors les roulades, par contre, moi, je trouvais ça un peu compliqué.
Un peu galère.
Faire deux points en avant ou quelque chose comme ça, ça marchait une fois sur 10. Heureusement, dans le suivant, ils ont arrangé ça. Mais concernant le tactile, j'ai pas vraiment...
De reproches
à lui faire, ouais.
Oui, ça marchait bien, en tout cas.
Ça marchait bien, ouais. Bon, c'est vrai que les combats étaient pas
C'était une belle prise de risque, en tout cas, il faut le dire.
Ah oui, totalement.
C'était une prise de risque, ouais.
Ça n'a pas plu à tout le monde, mais c'était de bonne qualité, en tout cas.
Au moins, Nintendo a fait honneur à la console, à la DS, quoi.
D'accord, donc vous êtes plutôt convaincu par le jeu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu le disais, finalement, les jeux DS ne sont pas à la hauteur de Link's Awakening. C'est bien, mais pas à la hauteur.
Alors, par contre, j'avais bien fait la parenthèse, justement. J'ai aimé le tactile, j'ai pas du tout aimé cet épisode. Pour des raisons, alors déjà j'ai trouvé la bande sonore mauvaise, les musiques je les ai pas trouvées marquantes, je les ai trouvées quelconques, à part une qui sort du lot, le thème de Lineback, et j'ai trouvé l'aventure assez fade.
Parce que je pense que ce que t'as trouvé fade c'était surtout les allers-retours dans la
exactement
dans la tour.
Ça c'est vraiment le truc qui est polémique et qui revient souvent.
Le donjon central, en gros, à chaque fois on va dans un donjon à part et on est obligé de revenir dans ce donjon central pour en gravir les niveaux, et j'ai trouvé ça d'une longueur, c'était long, on avait un système de temps qui nous empêchait de rester dedans, et puis c'était de l'infiltration en fait plus que des énigmes, et moi j'ai pas du tout aimé.
C'est vrai que l'infiltration était très présente dans cet opus.
On avait des gros ennemis en armure, là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Et on devait les esquiver parce que c'était impossible de les tuer, en fait. Et moi, ça ne m'amuse pas vraiment de jouer les Snake dans un Zelda.
D'accord.
Je pense qu'il a bien marché aussi parce qu'il est sorti juste après, 3 ou 4 ans après Wind Waker.
Alors justement, c'est la première fois qu'on a un jeu sur console portable qui fait suite à un épisode directement, hein, d'un épisode sur console de salon. Est-ce que Phantom Hourglass est une suite digne à Wind Waker? Si on nommait le côté portable ou pas portable, quoi.
Déjà, il est beaucoup plus court. Parce que, bon, déjà, il y a le support support portable, comme mais tu l'as dit, on met ça un peu de côté.
Sur le plan du scénario, est-ce que c'est une belle continuité pour cette histoire qui avait été entamée dans Wind Waker ou pas?
Bah, dans Wind Waker, le scénario était bien profond, j'ai bien aimé. Là, dans Phantom Hourglass, le souvenir que j'ai de cette aventure, du scénario en tout cas, est pour moi anecdotique. J'ai pas vraiment accroché à ça.
Clairement le même avis, j'ai pas eu de moment marquant. Pareil pour le dernier boss, je l'ai trouvé vraiment banal au possible. J'en garde vraiment pas un bon souvenir de ce côté-là. Contrairement à Wind Waker qui vraiment m'a émerveillé dans la façon d'amener l'aventure, de faire des clins d'œil sans faire trop remake.
La chose bien de Phantom Hourglass, c'est retrouver cette liberté qu'on avait dans Wind Waker et quelques petites quêtes annexes qu'on ne trouvait pas forcément dans son successeur.
Alors tu parles de successeur, justement le successeur de Phantom Hourglass sur DS, c'est Spirit Tracks, et autant dire que lors de sa présentation ça a fait jaser parce que voir Link en agent de la SNCF sur son train, ça, est-ce qu'il n'y a pas un côté hors sujet finalement par rapport à l'univers de Zelda?
Hors sujet, peut-être pas, parce que bon, c'est toujours bien d'amener un nouveau système de déplacement. Mais le problème avec le train, c'est que voilà, on n'avait plus de liberté dans Zelda, et quand on a plus de liberté dans Zelda, ça, c'est plus vraiment un Zelda. Je sais pas ce que t'en penses, parce que je crois que t'as aimé cet épisode.
Alors moi, justement, ouais, je l'ai beaucoup plus apprécié que Phantom Hourglass. Mais c'est vrai que le train, il aurait fallu qu'il soit plus étoffé. En fait, il aurait fallu faire vraiment une sorte de petit code de du train. Et là, on a trois panneaux qui se battent en duel pour faire le chouchou.
Faut le dire,
chouchou, et ça faisait rien en plus.
C'est assez chiant quand même. À part l'espèce de stratégie d'anticipation des ennemis sur les rails.
Des ennemis, oui, parce qu'il y avait des trains maléfiques un peu.
Voilà.
Mais c'est vrai que.
Vraiment. Moi, j'ai trouvé ça vraiment vite fait. Limite, on va faire un tracé comme ça et hop, vous prendrez ce tracé-là.
Oui, c'est ça, en fait, c'est toute la liberté qui a été volée à Zelda, en fait. On voit des immenses plaines, parce que l'univers est quand même grand, lui, en soi, mais c'est inaccessible, on reste dans le train à faire chouchou et à choisir sa direction, droite ou gauche, et éviter les mauvais trains. C'est limité, quand même. C'est dommage, parce que je trouvais l'idée intéressante, quand même.
Parce que voilà, alors au-delà du train, tu t'en parlais tout à l'heure, évidemment, de l'influence de Force World, on retrouve un gameplay en duo, finalement.
Attends, je vais spoiler, le jeu est sorti il y a longtemps, mais donc c'est Zelda qui est notre compagnon, donc en mode Zelda un peu en fantôme, donc il peut voler, donc tout le scénario se base un peu là-dessus. Donc tout est volé à, je dis volé parce que je n'ai pas vraiment apprécié cet épisode, donc tout est volé un peu à Force World, donc toutes les énigmes, j'avais l'impression quand j'ai rejoué à Force World que toutes les énigmes étaient dans Spirit Tracks. Et ouais, j'ai trouvé ça assez désolant. Ce que j'ai trouvé également désolant, un peu dans le même genre, c'est qu'il a également copié tout le principe de Phantom Hourglass. Il n'a vraiment rien apporté.
C'est vrai que de ce côté-là, on retrouve encore le thème du donjon central, même si c'est un peu moins contraignant.
Un peu moins chiant, mais...
Mais c'est vrai qu'on le retrouve, et moi, ça m'avait fait... Ça m'a fait un peu chier de retrouver ça, parce que vraiment, ça me prend la tête, moi, de jouer l'infiltration là-dessus. Bon, heureusement, il y avait Zelda qui pouvait prendre possession d'une armure et justement se combattre avec eux, donc déjà ça c'était fait. Mais sinon, le reste, c'est vrai que c'est encore. C'est pas ça quoi.
Ouais, c'était vraiment. Pour moi, c'est un copier-coller. Et il y a une seule chose qui a sauvé l'épisode.
Je sais.
C'est les musiques qui étaient magnifiques.
Les musiques vraiment avaient un bon par rapport à Phantom Hourglass. Je les ai vraiment appréciées. Bon, c'est pas marquant comme Ocarina of Time, Link to the Past ou autre.
Le thème principal en tout cas, c'est
le thème principal était quand on a vu le trailer, franchement, c'était assez balèze, ouais.
Je suis bien d'accord. D'un point de vue scénaristique, je n'ai pas joué à Spirit Tracks. Ça suit l'histoire de Phantom Hourglass ou pas du tout? Ça a aucun rapport?
Ça suit indirectement. Ça se passe en fait 100 ans après. On retrouve quelques personnages.
On retrouve quelques têtes
un peu
connues.
Outre
ça, il n'y a pas vraiment de suite dans le scénario.
Non, il n'y a pas vraiment de lien outre ce petit contexte-là.
D'accord. Pour donner un peu une perspective à ces jeux portables, alors on est sur une bonne tendance, on est plutôt sur une mauvaise pente.
Je pense que la série continue de se chercher encore sur le support portable. On le voit parce qu'à chaque fois, ils arrivent avec un nouveau concept, entre guillemets, des nouvelles idées qui fonctionne ou qui fonctionne pas, mais je pense qu'elle se cherche encore, ouais. Et qu'on a peut-être trouvé la solution, malheureusement, grâce au remake 3DS d'Ocarina of Time, qui élève les épisodes portables au niveau des salons, tout simplement.
Je pense que c'est ce qu'on verra par la suite. Enfin, je l'espère aussi, parce que les épisodes 2D sont bien, mais reprendre un peu... Parce que Phantom Hourglass reprend les idées de Wind Waker, Spirit Tracks reprend les idées de Phantom Hourglass, faudrait vraiment avoir un truc original, quoi.
Bon allez, on va repartir du côté des consoles de salon, et là, il va y avoir beaucoup à dire, puisque forcément ce sont des titres vraiment majeurs qui sont sortis ces 15 dernières années, et à commencer peut-être par celui qui est un peu le Zelda le plus reconnu de toute la saga, Ocarina of Time.
Le préféré, on a envie de dire que c'est le préféré parce que...
Alors en tout cas, c'est vrai que dans toute la saga, c'est peut-être l'épisode le plus classique, en tout cas au niveau du scénario, dans sa forme. Enfin, c'est peut-être, s'il devait y avoir une référence dans le système de jeu des Zelda, c'est peut-être celui-là.
Oui, bah, c'est le schéma classique qu'on connaît avec Wind Waker ou Twilight Princess, un peu moins avec Majora's Mask, mais... Oui, donc c'est celui qui a vraiment amené le schéma qu'on connaît aujourd'hui, que le plus de personnes connaissent aujourd'hui.
Même s'il se repose quand même beaucoup sur Link to the Past. Enfin, sur la...
Oui, oui. Ça garde un peu quand même ce qu'avait apporté Link to the Past. Mais je pense que c'est pas pour ça qu'il a été vraiment adulé. C'est surtout pour la claque qu'il a mis à tout le monde, à tous les joueurs, en fait, quand il est sorti. C'est la première fois qu'on avait un jeu en 3D, un Zelda en 3D déjà. Et la première fois qu'on avait un jeu aussi grand et qui a apporté autant de nouveautés dans le gameplay, dans la façon d'utiliser le gameplay, dans la maniabilité. Enfin, on en a déjà parlé dans les anciens podcasts, mais voilà, c'est surtout la claque qui fait que ça reste l'un des préférés des joueurs, je pense.
Pareil, la claque, ça a été qu'après 5 ans d'attente, enfin, les joueurs commencent un peu à désespérer, puis qu'on nous propose une aventure aussi riche, aussi originale, parce que le gameplay est quand même révolutionnaire pour l'époque, avec le système du lock notamment, qui a été inventé par ce jeu et qui sera repris d'ailleurs à l'identique dans tous les prochains Zelda, ce qui montre un peu
et dans d'autres jeux aussi, dans d'autres
et
jeux
dans d'autres
Nintendo.
Jeux, oui, surtout ce qui montre l'ampleur qu'il a eu non seulement sur la série mais aussi dans le jeu vidéo en général. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a vraiment été c'est peut-être pas le meilleur en soi, mais c'est celui qui a le plus marqué. Je pense que les joueurs confondent peut-être un peu
ouais, c'est ça. C'est clairement pas le meilleur, surtout que maintenant, Nintendo a appris des erreurs de Ocarina of Time pour les corriger, enfin essayer de les corriger. Mais c'est celui qui a mis la
parce qu'effectivement, quand on parle d'Ocarina of Time, il faut bien remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Il fallait voir ce qu'étaient les jeux 3D à l'époque et voir ce qu'était Ocarina of Time. Il y a une telle différence. Et puis au niveau, c'est vrai, enfin tu le soulignais, Bibi, mais il y a une telle richesse en termes d'univers, puisque jusqu'alors, même dans Link to the Past, bon, on avait peut-être un petit peu le lac, un petit peu les montagnes, mais là on a vraiment des univers marqués, avec vraiment, on le voit ne serait-ce qu'au niveau des personnages, avec autant d'interactions avec les personnages, et surtout en plus avec le fait qu'on soit petit, qu'on soit grand, que les relations avec ces personnages non jouables, avec ces PNJ, évoluent. Et puis une cohérence absolue dans l'univers, c'est-à-dire que là où d'autres jeux on avait une map, alors on sort d'un univers, on passe dans une map, et puis alors après on passe dans un village où en fait tout est un peu déstructuré, tout là est lié, il y a une telle fluidité dans l'univers et dans sa cohérence finalement, oui. Avec le jour et la nuit,
oui, excellent.
Qui intervenait directement dans le gameplay le jour et la nuit, hein, qui
oui.
avait des influences sur,
oui,
sur
oui,
les
sur,
éléments.
Par exemple sur la plaine, les monstres apparaissaient la nuit, ou
le pont-levis se levait,
voilà,
on pouvait plus accéder à la ville.
On pouvait quand même chevaucher Epona pour la première fois, enfin, c'était un moyen de transport.
Qui a le plus marqué,
voilà,
je pense.
Voilà, qui a le plus marqué, d'ailleurs tout le monde demande Epona, quand Twilight Princess a été annoncé, c'était l'euphorie. Donc voilà, c'est...
Aussi l'apport cinématique, enfin l'apport un peu cinématique dans l'histoire. Pour la première fois, on a vraiment des cutscenes.
On a vraiment une histoire narrée
oui, voilà,
par la vidéo. Quoi.
A Link to the Past en fait a enclenché la chose et Ocarina of Time l'a magnifié, on va dire, grâce au mouvement de caméra qui était possible et impossible sur Super Nintendo.
C'est vrai. Et alors autant dire qu'évidemment succéder à Ocarina of Time n'est pas une mince chose à faire, et surtout en un temps record, puisque avec seulement un an de développement, Nintendo propose une suite à Ocarina of Time et un Zelda qui va faire débat.
Un Zelda osé, on va dire. Hein.
Exactement, Majora's Mask.
Bah alors, que dire si ce n'est que c'est surprenant pour l'époque, c'est sûr, d'attendre 5 ans pour avoir Ocarina of Time, puis tout d'un coup, en à peine un an de développement, on nous sort le prochain, ça avait de quoi susciter des craintes quand même. Mais en fait,
moteur, hein. Le même moteur visuel,
oui,
même personnage.
Ils ont expliqué qu'ils avaient passé tellement de temps à créer les personnages, l'univers et tout ce qu'il y avait dans Ocarina of Time qu'il fallait un peu le rentabiliser en gros. Et qu'ils se demandaient est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre tous ces modèles 3D qu'on a et les porter dans une nouvelle histoire. Et après, Miyamoto est venu avec l'idée des 3 jours qui rendait l'univers plus compact et qui permettait de faire des relations comme ça entre les personnages.
Alors tu le dis, hein, je pense que c'est honnêtement, c'est la grande force de Majora's Mask. C'est qu'avant, dans même tous les jeux encore aujourd'hui, on a des personnages dont les attitudes dans les jeux d'aventure sont scriptées. Bon, alors on se retrouve en fait, qu'on y joue là maintenant ou dans 5 ans, on se retrouve toujours avec la personne au milieu de la place qui fait son truc, machin.
Qui dit tout le temps la même chose.
Exactement.
Ça a changé, ça a évolué au fil du temps.
Exactement, le fait d'avoir en fait bloqué pendant 3 jours, d'avoir limité le temps de jeu à 3 jours, mais 3 jours finalement qui s'écoulent, c'est qu'il ne se passe pas la même chose dans le second jour que dans le premier jour. Et le temps défile en permanence. Avant, dans Ocarina of Time, lorsque vous rentrez dans un village, le temps s'arrêtait.
Oui.
Ou rentrez dans une maison, le temps s'arrêtait. Là, le temps défile en permanence. Et du coup, chaque personnage agit en temps réel. C'est-à-dire, sort de chez lui.
Il fait sa vie pendant 3 jours.
Exactement,
quoi.
Le facteur fait sa tournée.
Ils n'attendent pas que le joueur fasse une action par rapport à eux. En fait, ils la font. Ils ont des choses préfaites, en fait, comme le facteur qui fait sa tournée, tout ça. Et ça rend l'univers incroyablement vivant. Moi, c'est aussi
exactement,
ce qui m'a marqué.
Et incroyablement crédible, parce que du coup, les gens n'ont. Je veux dire, que ce soit l'heure, le moment, les gens ne font pas la même chose. Enfin. Et c'est crédible dans le sens où c'est scénarisé finalement selon ces 3 jours. Et d'ailleurs, il y a une des mini-quêtes qui est vraiment basée là-dessus avec le masque des amoureux
café
et le café,
jeu, ouais.
Où on va intervenir sur ce personnage pendant ces 3 jours. Et ou à l'instar aussi du fameux cambrioleur qui passe le deuxième jour, mais seulement le deuxième jour. Enfin, c'est ça qui est vraiment génial. C'est que...
Ça apporte une authenticité au personnage en fait. C'est plus seulement des marionnettes qui sont là à débiter leurs phrases. On a l'impression qu'ils sont réellement vivants, qu'ils s'en foutent de toi, qu'ils font leurs petits trucs.
T'as un peu l'impression que c'est d'autres joueurs qui les contrôlent, quoi.
Ce serait comme un MMORPG.
Une idée différente de Link, quoi.
Ou d'autres joueurs font vivre les personnages autour de soi. Et vraiment, ça a été quelque chose de marquant pour moi, ouais.
Puis ça a été une très grosse prise de risque de Nintendo quand on sait le succès qu'a eu Ocarina of Time, sortir 2 ans après un épisode... qui n'a franchement rien à voir avec Ocarina of Time.
Parce que, comme dans Link's Awakening, finalement, Ganon, hop là, au revoir.
Voilà.
Oui, Zelda, voilà, le mini flashback pour qu'elle rappelle le chant du temps.
Oui.
Voilà, enfin, est complètement mise aux oubliettes. Et puis avec l'arrivée d'un personnage assez ambivalent, finalement. Autant avant, on avait vraiment des méchants-méchants.
Oui,
puis
voilà,
c'était
des gros baraqués
avec
Skull Kid. Une belle de méchants. Et là, on a une petite créature, Skull Kid, qu'on avait déjà pu apercevoir dans Ocarina of Time, assez frêle, assez... voilà, on ne penserait pas de lui que c'est le dernier boss, en fait.
Clairement, clairement.
Ou
l'ennemi.
Finalement,
qui est manipulé par ce masque. On a les transformations pour la première
fois. Oui, voilà, la quête des masques.
Transformé en Mojo ou je sais plus...
En Goron, en Zora.
Goron, voilà. Donc,
et ça, d'ailleurs, c'est utilisé de manière vraiment géniale lorsqu'on est en Mojo et que du coup, on se retrouve avec les Mojo tous ensemble, avec le singe qui va se faire capturer et tous les Mojo, on se retrouve avec eux. Il y a beaucoup d'humour, finalement.
Oui,
il y a énormément d'humour.
Même s'il y a vraiment un côté finalement sombre, c'est vrai que Nintendo, c'était un peu la période, évidemment, avec la concurrence PS2. Enfin, il y avait toujours ce côté Nintendo, c'est les gamins, Nintendo, c'est les gamins. Et Nintendo a voulu orienter son jeu un petit peu vers un côté un peu plus sombre et adulte.
C'est même pas un peu plus sombre, c'est à chaque fois, je le dis, notre chemin est jonché de cadavres. Hein. Dans Majora's Mask, il y a des morts partout, on est obligé de les apaiser avec le chant de l'apaisement.
C'est vrai, ouais.
Il a un univers incroyablement sombre, et moi ça m'a plu, bizarrement.
C'est vrai qu'on incarne souvent des morts avec les masques.
Oui, c'est ça, on vit à travers...
Oui, c'est vrai.
Par contre, il a pas, ceux qui aiment Zelda pour les donjons, il n'a pas énormément de donjons.
Ah ouais.
Ah oui,
Quatre donjons.
Ouais. Bah, je pense que c'était la concession des 1 an de développement. Hein. Ils ont préféré, je pense, bâtir le centre du jeu sur justement cet aspect 3 jours, les quêtes annexes pour moi, c'est clairement la plus grosse partie du jeu.
Clairement.
Les donjons, pour moi, ils sont limite hors contexte de l'aventure principale.
Les catanexes, il y en a dix fois plus.
Il y avait même un agenda pour noter les catanexes.
Ouais, le journal des bombers, oui.
Exactement. Ouais. On prenait rendez-vous, justement. Enfin, tellement, voilà, chaque personnage avec son emploi du temps très précis. Et du coup, on prenait rendez-vous. On se disait, tiens, là, il va. À ce moment-là, on peut le croiser à tel endroit et tout.
Ouais, exactement. Ça rendait le jeu très vivant, ouais.
Alors forcément, Majora's Mask divise, et alors autant dire que celui d'après...
Ouais, mais Nintendo est bien dit
encore plus.
Ouais, Nintendo était sur sa lancée, je pense.
Puisque forcément, on en avait déjà parlé, mais Nintendo a fait une démonstration technique pour la GameCube, d'un Zelda finalement assez similaire à Ocarina of Time. On avait un combat entre Ganondorf et Link. Et puis finalement, non, on a un Zelda en cel shading.
En cartoon, ouais. Excellent.
Design cartoon, et puis alors dans un... fini la plaine, on se retrouve en pleine mer. Alors, comment l'avez-vous accueilli ce jeu, Bibi ?
Alors, je me souviens, j'avais pas internet à l'époque, j'avais dû aller chez ma tante pour pouvoir naviguer un peu, et j'étais tombé sur la première image de Wind Waker. Et avec mon frère, on s'était dit, jamais on achètera un truc comme ça, pour Zelda, je sais pas ce que c'est. Et je l'ai acheté Day One, finalement. C'est le fan qui est revenu à l'appel. Et moi, j'ai adoré.
Ouais, bah moi j'ai pas vraiment aimé, enfin, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais ça reste un des souvenirs les moins marquants, parce que pour moi déjà le jeu était très marrant, j'ai vraiment adoré, mais j'ai trouvé l'ambiance de la série Zelda, bah je l'ai pas retrouvé justement, cette ambiance là
D'accord, ouais.
et donc voilà, ça m'a un peu déçu également, la grande liberté avec le bateau, je trouvais qu'on se faisait, enfin moi je me faisais assez chier dans
Ah, ça c'est vraiment
sur pour naviguer quoi.
C'est vraiment le point qui a fait énormément débat, c'est que de la liberté, peut-être trop de liberté, peut-être trop de vide aussi finalement.
Trop
parce
de vide.
Alors, autant dire que l'espace de jeu est juste monumental.
Immense.
Je pense que la saga Zelda, enfin c'est juste peut-être 100 fois Ocarina of Time. Honnêtement, hein, je pense vraiment.
Je
te contredis pas en tout cas.
Mais alors voilà, alors peut-être les voyages en bateau, toi, ça t'a pas...
Voyage en bateau, et puis c'était surtout... Wind Waker était vraiment axé sur beaucoup de quêtes annexes, beaucoup de visites sur les petites îles, voir toutes les îles, c'était, fallait quand même prendre une petite carte, les noter à la main pour savoir où on en était exactement. Moi, j'ai pas trop apprécié ce système de jeu, après il y en a qui aiment évidemment, mais c'est aussi la durée de vie du titre qui était... inférieur, je trouve, à Ocarina of Time par exemple, des donjons bâclés. Je crois que c'est le deuxième donjon ou le troisième donjon où on arrive sur l'île, tu t'apprêtes à rentrer dans un donjon et tout, et on te dit que bah, finalement il n'y aura pas de donjon.
Ouais. Oui, c'est Jabu Jabu lui-même qui vient te donner la perle, genre casse-toi.
Et bah là, ça a été pour moi un peu.
C'est un peu une première, c'est vrai, dans un Zelda.
On l'a appris un peu après, mais c'était à cause de l'époque en fait. La GameCube allait mal, elle se vendait pas du tout, elle se faisait éclater par la PlayStation 2 et même la Xbox, qui était pourtant toute neuve, hein, Microsoft qui venait d'arriver dans le monde du jeu vidéo, lui tenait tête, alors que Nintendo avait 20 ans dans le domaine des consoles, et ils devaient sortir leur jeu vite, donner un Zelda, histoire que les joueurs essayent de revenir sur la console, et il a été amputé de deux donjons, on l'a appris, hein, sûrement celui de la troisième perle.
Autant voilà, on est au courant de rien, honnêtement dans le jeu, ça sent à des kilomètres qu'il a été supprimé.
Et encore plus à la quête de la Triforce. Hein.
Ah oui, alors ça oui.
Alors
c'est
la
ouais.
pire quête de tous les Zelda.
Bah, je crois que je l'ai...
On se retrouve à pêcher.
Tu as abandonné le jeu à ce moment-là.
Tu vas aller à la quête de la Triforce, on s'imagine un truc de fou. Et puis on se retrouve
à pêcher
dans les cases. Ah ouais,
fallait pêcher, avoir la carte, aller la faire décrypter chez Tingle pour un prix exorbitant. Fallait 3 millions de rubis pour finir la quête.
Ça, c'est vraiment du remplissage.
Et après, aller chercher le morceau de Triforce, tu pètes un câble. Hein.
Ouais, ouais. Vraiment, c'est fou parce que Wind Waker a un charme indéniable. Je pense qu'on est, tous d'accord.
Et
finalement, c'est peut-être le premier Zelda qui est bâclé, finalement. Enfin, où on a un sentiment de jeu sorti un peu la va-vite, finalement.
Ouais, pourtant, Majora's Mask, en un an de développement, on a vu ce qu'ils avaient réussi à offrir. Et là,
peut-être
on sent...
parce que justement, ils s'étaient posé des contraintes.
Oui, je pense.
Majora's Mask était dans son style propre.
Et puis,
voilà.
ils sont posés des vraies contraintes, comme tu disais. Il y a eu très peu de donjons dans Majora's Mask. Ils ont volontairement réutilisé tout
c'était assumé, quoi. C'est vrai
que voilà, c'était assumé, exactement.
Voilà, oui, puis surtout, je pense que dès le début de Majora's Mask, ils s'étaient dit, on a un an pour le faire, donc ils sont vite répartis les tâches, tout ça dans le temps.
Ouais, c'est vrai.
Alors que Wind Waker, je pense qu'ils avaient une idée globale du jeu, justement, faire plus de donjons, tout ça, mais que Yamauchi, le président à l'époque, a dû leur dire, niette, faut le sortir vite. Mm-hmm. Et ils ont été coupés dans leur élan, en fait. Et résultat, ça a donné cette sensation un peu amère dans la bouche à la fin de l'aventure. Je pense que c'est ça la raison, en tout cas.
Clairement. Finalement, après deux épisodes vraiment spéciaux, peut-être par l'appel des fans, mais finalement, Nintendo revient aux sources et aux fondamentaux, forcément Ocarina of Time, avec la sortie de Twilight Princess qui fait vraiment écho, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin qui fait vraiment écho, c'est vrai, à cet épisode de la Nintendo 64.
Complètement, à 100%. Là.
Alors Twilight Princess, finalement, un jeu GameCube reporté sur Wii, à ce genre.
C'est un multiplateforme, on va dire.
Voilà, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé à sa sortie,
Moi,
j'ai Crayo.
Tout excité, comme les gens qui ont vu la conférence.
Exactement, le 3 2004, c'était
le gros bordel. J'ai vraiment apprécié ce retour aux sources, entre guillemets, sources évidemment. Mais encore une fois, on a senti que, enfin, je sais pas, qu'il manquait quelque chose, un caractère à ce titre. Et c'était un peu dommage.
Il manquait clairement l'aspect magique, il manquait une âme en fait à ce Zelda. On sent qu'ils ont voulu, après deux épisodes à part, Majora's Mask et Wind Waker, revenir à la base pour tous ceux qui avaient apprécié le premier jeu 3D de la série. Et ils ont trop pompé, quoi. C'est limite du copier-coller, ouais. C'est les deux mondes, un nombre de donjons conséquent, mais pas forcément extrêmement travaillé, et surtout un vide au niveau des quêtes annexes qui m'a laissé bouche bée.
Clairement.
Il y a deux quêtes, elles sont ultra chiantes, c'est aller chercher les âmes et les insectes, je trouve ça mais nul.
Pourtant, le jeu voulait quand même apporter quelque chose, je trouve, avec le loup, enfin,
oui, on sent l'idée.
Il y avait de l'idée,
mais je trouve que le loup, c'est des phases ratées.
Ah oui,
où faut à chaque fois ramener la lumière et choper des
insectes. Oui, puis à la limite, et encore quand le loup est utilisé, puisque dans la première partie du jeu, encore, donc il y a le monde qui est baigné dans les ténèbres, et au fur et à mesure que le loup, on remet la lumière comme ça, mais après dans la seconde partie,
c'est complètement
fini.
Ah, c'est complètement ça. C'est en fait, le loup sert à ramener la lumière, et puis une fois que la lumière est ramenée, on en entend limite plus parler, quoi. On n'en a plus besoin, sauf en de rares cas, mais il y a un gros manque à ce niveau-là, je trouve.
Mais ouais, moi, je trouve que quand même, Twilight Princess a quand même apporté des moments épiques, enfin des moments d'anthologie.
C'était la volonté du jeu. C'est vrai que dès les trailers, on avait vraiment...
Le retour d'Epona, ça fait choc. Ça fait un choc.
Se battre à cheval, c'était une des nouveautés du jeu.
Ça avait un petit aspect, en fait, Seigneur des Anneaux, avec les combats.
Mais même ces gobelins, enfin, on n'avait jamais vu ces créatures dans Zelda, finalement, qui sont pas tellement Zelda.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est pas tellement dans l'esprit de la saga, tout d'un coup on se retrouve avec des orques,
Ouais, je pense qu'ils ont vraiment voulu donner un côté super épique à cet épisode.
Ouais, je sais pas si vous vous souvenez du combat sur le pont.
Ah oui, c'était
excellent. Donc ça c'est un moment qui restera gravé, et il y en a eu d'autres également dans ce titre, et c'est pour ça que moi je l'ai bien apprécié quand même.
Bah moi je l'apprécie aussi, mais surtout après coup en fait, avec la réflexion, avec le temps qui passe, que je l'apprécie un peu plus en tout cas.
Twilight Princess pour moi reste une chose, je crois que j'en avais peut-être déjà parlé dans le podcast, mais une chose que Nintendo, en tout cas j'avais jamais vu ça de ma vie dans un jeu Nintendo, c'est voilà, la place du village qui est remplie de monde, on arrive et on peut parler à personne, il n'y a aucune interaction, et c'est la première fois que dans un jeu Nintendo, en tout cas moi je voyais ça pour la première fois, on nous montre quelque chose qui ne sert à rien.
C'était pour donner de l'animation.
C'est voilà, comme, je crois que j'avais déjà fait le parallèle, mais dans un univers, on rentre dans un niveau de Mario 64, on voit des plateformes de ouf de partout, et on dit ah non, mais attends, mais là tu vas pas y aller, hein. Non, c'est pour faire joli en fait. Non, mais attends, scandale.
Il me semble qu'on pouvait quand même parler à quelques
personnes. Ah oui, il y avait deux avec
quelques
on
personnes
parler,
qui n'avaient pas grand chose à dire, il n'y avait pas de quête qui leur était liée. C'était du remplissage.
C'était clinquant, ouais, exactement, c'est du remplissage. C'est vraiment genre, il y a de la vie, mais
oui, voilà.
Et contrairement à Majora's Mask, il n'y avait que dalle.
Ah oui, bah là, si on compare à Majora's Mask, voilà. C'est sûr
en fait,
que là.
Il y a de la vie visuelle.
Exactement.
Et ouais. Alors que Majora's Mask, il avait une vie cohérente et authentique.
Puis même dans le village Cocorico, je sais pas si vous.
Oh là là,
ah non, mais pour moi, ça ne mérite pas le nom de village.
Oh là là, mais il y a rien. Mais, comme dans c'était déjà un peu peut-être le cas dans la plaine dans Ocarina of Time. Mais enfin, je sais pas. Peut-être parce que il faut aussi que le jeu évolue et qu'il apporte des choses. Mais putain, je suis désolé, la plaine de Twilight Princess est d'un vide intersidéral.
Ouais.
Elle est vide et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle était coupée. en fait.
Ah oui, alors ça,
il y avait
ça,
des chargements. Ah, ouais. Alors, alors sur la peine, moi je trouve ça assez inadmissible.
Surtout après Wind Waker, où on sortait d'une porte sur une île, on allait à l'autre bout de la carte, on est débarqué sur l'île, aucun temps de chargement.
C'est là que tu te demandes pourquoi.
Oui, voilà. À la limite, entre les gros environnements, genre entre la plaine et le désert, tout ça, ça, à la limite, oui. Parce que bon, c'était la GameCube, hein, 1,5 Go de mémoire sur les mini-DV. Ouais. Mais là, la plaine coupée en morceaux, moi j'ai trouvé ça scandaleux du point de vue de la liberté.
Oh, puis même, enfin, je suis désolé, mais t'arrives sur le mont Péril, t'arrives dans la demeure des Gorons, une petite caverne, enfin, il y a rien de, enfin, tu peux pas te dire qu'ils vivent là-dedans, enfin, c'est.
Ouais, c'est clair. Mais enfin, moi, je trouve qu'il a vraiment été trop pompé sur.
Voilà. il y a clairement un aspect.
Il avait pas d'âme, il avait rien du tout.
Il y avait un aspect trop fan service en fait.
Ah, exactement. Oui.
Oh, ils ont aimé les Gorons, on va leur remettre les Gorons. Ils ont aimé les Auras, on va leur remettre les Auras. Ils ont aimé Ganondorf, il est inutile dans l'histoire, on le voit qu'à la fin pour l'affronter. Et ben on le met quand même.
C'est clair, le méchant.
Il sert à rien, il arrive tout d'un coup, tu sais pas d'où il sort, puis tu le retrouves en boss final. Moi je trouve c'est fan service au possible.
Il manquerait plus que Navi et puis on
c'est
était.
C'est ça, Navi qui fait une apparition à la fin, genre hey, watch out, et puis voilà, c'est fini.
Point positif, Midona était vraiment excellente.
C'était même si, enfin là pour le coup, c'est encore du repompage. Bon, ça se rapproche énormément de Skull Kid dans.
Oui, avec l'espèce de masque déjà.
Exactement,
rien que visuel.
D'avoir un personnage ambivalent entre le bien et le mal qui s'amuse avec Link.
Ouais, au début on sait pas trop si elle est de notre côté ou pas. Elle a un peu ce caractère de Navi un peu chiante parfois. Aussi, ouais. Mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même le personnage assez savoureux dans ses dialogues, dans la façon dont il est amené à travers le scénario. J'ai trouvé que c'était un des bons points du jeu.
Et pour terminer le débat, on voit que les joueurs, enfin les fans de la saga Zelda sont vraiment exigeants sur tous les Zelda. Parce qu'on a parlé un peu de tous. Et sur quasiment aucun, on a été d'accord sur qui aime quoi, qui aime quoi d'autre. Et donc voilà, je trouve que chaque épisode a ses caractéristiques et plaira à différentes personnes et ne plaira pas à d'autres personnes.
Ah bah alors justement, tu poses la question, mais toi, quel est le Zelda que tu préfères parmi tout cela ?
Et bah moi, ça restera pour sa qualité, je parle de sa qualité, on a énuméré beaucoup de ses défauts, mais ça restera Twilight Princess. Je trouve que c'est celui qui est le plus abouti, qui donne...
Le plus abouti, bah, c'est ça.
Enfin, qui est le plus abouti et qui... ouais, bah, le plus abouti, voilà. rien que niveau visuel, les quêtes, enfin j'ai vraiment aimé. Après, Ocarina, quand j'ai rejoué à Ocarina of Time 3D sur 3DS, je l'ai vraiment trouvé fade.
Oh.
Après, oui, quand j'ai. Ouais, voilà. Majora's Mask, j'ai beaucoup aimé également, qui cassait bien dans le rituel de la série. Et Wind Waker, comme je l'ai dit, je n'ai pas très très apprécié.
D'accord, donc Twilight Princess, une voix pour toi aussi, Bibi.
Alors pas du tout, non, c'est pas mon préféré, même si je jette pas forcément la pierre. C'est une question difficile, encore une fois. Mon coup de cœur de la série, pas le meilleur, mais mon coup de cœur, je pense que c'est Majora's Mask, pour encore l'aspect 3 jours, l'aspect authentique. J'ai adoré avoir les quêtes avec chaque personnage qui avait chacun son importance, ça j'ai adoré. Après, il y a aussi Link's Awakening, pour son univers, son onirisme. En fait, j'aime les Zelda différents, je pense. Et parce que le dernier, c'est Zelda 2. Mais ça, c'est complètement subjectif, vu que c'est mon premier jeu vidéo, mon premier Zelda. Et voilà.
Ouais, je note aussi que j'ai beaucoup aimé Phantom Hourglass. Contrairement à
toi. en tout cas, moi, personnellement, je te rejoins, Bibi, sur Majora's Mask, qui reste, en tout cas, pour moi, le meilleur jeu Nintendo ever.
Ah,
au-delà
de
Zelda.
Alors là,
d'avoir... une telle, et c'est fou, et c'est ça qui est fou, c'est qu'en un an de développement, ils ont réussi à faire quelque chose d'une complexité absolue, une telle richesse. Alors, et c'est là, je pense qu'il y a justement une certaine scission, c'est que personnellement, dans Zelda, j'accorde énormément d'importance à l'univers, énormément à la vie de l'univers, à sa cohérence, à sa magie. Et je sais que d'autres personnes vont accorder beaucoup plus d'importance au donjon et à l'aventure principale spécialement. Donc je pense que ce Majora's Mask ne répond absolument pas à cette demande-là.
Pas du tout, même.
Mais, et puis alors, une ambiance mélancolique, tellement différente. Et voilà, on en parlait forcément, comme tu disais, avec les emplois du temps et la vie de tous ces personnages. Et puis cette lune menaçante, souriante, grimaçante.
Ouais, oui, grimaçante
plutôt,
ouais.
En plus.
Il y a vraiment quelque chose de vraiment à part dans cet épisode. Et voilà, pour ma part, voilà, je préfère un peu comme toi les Zelda qui, même si j'ai évidemment adoré Ocarina of Time et que j'ai pris énormément plaisir sur cet épisode, je pense qu'une licence doit amener à chaque fois quelque chose de nouveau et ne pas, comme dans Twilight Princess,
se reposer ouais, sur ses lauriers.
Voilà, exactement, de faire du best-of.
Ce que j'aime vraiment beaucoup dans Twilight Princess, c'est l'univers et la façon épique qu'il a été, comment il a été amené. Enfin, c'est ça qui m'a charmé. Et puis le retour à Ocarina of Time, enfin le
retour, oui, le lien,
ouais,
un
voilà,
peu
le lien. Mais au-delà de ça, outre la claque, Ocarina of Time, je trouve pas qu'il soit exceptionnel. Enfin, Ocarina of Time sortirait demain, enfin aujourd'hui on va dire.
Oui, il faut remettre dans le contexte de l'époque, c'est clair.
Il serait pas tellement jouissif.
Mais en tout cas, je pense qu'on peut être d'accord sur une chose, c'est que aussi le premier Zelda auquel on a joué vraiment un impact sur nous, puisque c'est évidemment la première fois qu'on découvre l'univers, et du coup je pense que l'épisode auquel on a joué en premier finalement nous a peut-être un peu marqué d'une certaine façon,
nous a influencé pour les prochains. Bah, je le pense, parce que j'ai commencé avec Zelda 2, le vilain petit canard de la série. Et bizarrement, mes Zelda préférés, c'est les plus différents, tout simplement.
Moi je suis d'accord, moi j'ai commencé la série avec Ocarina of Time, c'est pour ça que je le classe pas comme étant mon préféré, parce que ça a été une claque certes, mais au final, maintenant, depuis que j'ai refait la version 3D.
D'accord, donc les deux Majora's Mask, un Twilight Princess. Alors qu'en pensent les membres de Nintendo Master? Est-ce qu'ils sont du même avis? Ben, on va leur poser la question. Alors tout de suite sur Skype, on a Saphir qui est avec nous. Salut Saphir, ça va bien?
Ça va bien et vous?
Ça va nickel.
Ça va, ça va. Alors la grande question, et la question qui anime évidemment tous les débats, quel est toi ton Zelda préféré?
Donc mon Zelda préféré, c'est Ocarina of Time.
Ah,
le grand classique.
Le grand classique. Alors rapidement, qu'est-ce qui fait que c'est ton Zelda préféré?
Bah déjà, c'est le premier auquel j'ai joué.
Ah ouais.
Sur la console virtuelle de la Wii, parce que j'avais pas la Nintendo 64.
D'accord.
Et même sur la console virtuelle de la Wii, le jeu il m'a choqué. Rien que son scénario, la 3D utilisée, parce que je connaissais quand même un peu l'époque.
D'accord. Donc même le fait que le jeu est un peu vieilli, hein, c'est vrai, visuellement, on peut le dire.
C'est vrai que sur 64, il était assez... Enfin, c'est assez mal vieilli, quand même.
C'est assez mal vieilli. Malgré ça, ça reste une vraie découverte pour toi.
Ouais. Surtout l'attente que j'ai eue avant de pouvoir y jouer, en fait.
Ah oui, d'accord. Parce que sur Wii, pourtant, c'est... Enfin, c'est... Tu peux le télécharger, c'est vrai, assez plutôt directement, ouais.
Ouais, mais je n'avais pas la manette qu'il fallait.
Ah, oui,
le gros problème.
Effectivement, on n'y est pas pensé. Merci beaucoup pour ta participation, Saphir.
Je vous en prie.
Et puis à une prochaine.
À une prochaine.
Allez,
ciao.
Bonne
bye
soirée.
Bye. Bye.
Et on prend tout de suite quelqu'un d'autre sur Skype. Il y a Nicolas qui est avec nous. Salut Nicolas, ça va bien?
Oui.
Alors Nicolas, question rituelle, quel est ton Zelda préféré?
Alors, c'est The Legend of Zelda, le dernier, en fait.
Twilight Princess? Ou lequel?
Le Skyward.
Ah ouais, attends, mais comment c'est possible? C'est-à-dire que, à peine sorti, déjà c'est ton préféré?
Bah, par son ambiance, en fait.
Ouais.
Bizarrement, j'ai ressenti une ambiance, en fait, qui m'a fait beaucoup penser au premier.
Quand tu dis au premier, c'est auquel?
Au tout premier, celui de la NES.
Ah, d'accord. Ah oui.
Ça c'est intéressant.
C'est à dire, mais c'est comme ça. C'est la sensation que j'ai ressenti hier soir, hein, malgré qu'il n'y a rien à voir. Hein, que ce soit au gameplay, au graphisme et tout, je sais pas. C'est quand j'ai fait mon premier donjon hier soir, en fait.
D'accord. Oh,
la
attends.
Sur et un... tout, ça m'a fait penser à ça.
Sur un seul donjon, c'est déjà ton Zelda préféré. Enfin, pétard, c'est une belle prouesse.
Qu'est-ce que ça va être à la fin, quoi? À la fin du jeu, ça sera.
Ah, il y a le temps encore.
Ouais, bah, j'espère bien.
T'as joué à tous les Zelda du coup ou pas?
Ah oui, j'ai commencé d'ailleurs dès 89 à jouer au premier Zelda sur NES.
Ok, donc d'accord, t'as vraiment un avis
Tranché sur la question.
Un
ouais.
avis tranché sur la question, effectivement. Enfin, t'as une expérience derrière sur la saga Zelda.
C'est bon signe.
Bon, oui, c'est sûr. Hein.
Ouais. Et ben écoute, en tout cas, merci beaucoup Nicolas pour ta participation.
Mais de rien, bah merci.
Et ben merci à toi, une prochaine.
À une prochaine, ouais.
Merci,
ciao.
Andy, bye. Alors on vient de le voir, hein, à peine un donjon de fée, ça y est, c'est le Zelda préféré.
Ouais, bah
j'espère que c'est comme ça emballé, hein, honnêtement.
Moi aussi, j'ai un peu de doute, mais...
Ouais. Moi j'irai pas jusque là, vu que j'ai fait le premier donjon, mais je suis quand même assez emballé.
Alors voilà, alors justement, ça va être l'occasion d'en parler tout de suite dans les titres de la semaine. Alors tout ça c'est très bien, mais forcément il est temps d'attaquer Zelda Skyward Sword. Alors, on s'en souvient, hein, on avait l'habitude de recevoir en Europe les jeux Zelda un an après le Japon, parfois, un an après les États-Unis. Et puis alors là, je pense que c'est quand même une belle première.
C'est un événement, ouais.
C'est que le jeu est disponible chez nous avant tous les autres. On m'aurait dit ça, je crois, il y a 5 ans, j'aurais jamais cru ça, que c'est les clair. Zelda sortent ouais. en Europe avant tous les autres.
Tu m'étonnes.
Et puis alors, encore plus en Suisse, où on a d'ailleurs Falux en direct avec nous. Salut Falux, ça va bien ?
Salut tout le monde, ça y est, français.
Salut.
Ah, salut.
Alors le Suisse, comme ça, on a Zelda depuis quand ? Quand est-ce qu'il a été mis en, il a été mis en vente ? Alors, même la semaine dernière, non ?
Moi, je l'ai reçu ce week-end.
D'accord.
T'as plus de quasiment 10 jours avant. Quoi.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Donc voilà. Alors pourquoi ? Pourquoi cette injustice ?
Exactement.
C'est je pense que ce que se posent beaucoup de personnes et j'ai l'impression que c'est à cause de la vente en ligne. Parce que beaucoup de Suisses, donc vous savez, hein, en Suisse c'est plus cher, tous les jeux sont plus chers, les consoles sont plus chères de quelques euros ou francs chez nous. Et je pense que c'est pour dissuader les personnes de commander les jeux en France.
Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que beaucoup de monde en fait en Suisse importe les jeux depuis la France, c'est ça ?
Je pense que oui, ça se fait pas mal. Si on est vraiment gamer et puis qu'on n'a pas beaucoup de budget.
Un peu comme nous avec l'Angleterre.
Exactement, ouais, avec les sites anglais.
Ouais, c'est vrai que nous, ouais, on fait la même chose avec la livre, puisque ouais. c'est plus avantageux. Mm-hmm. Mais...
Donc, voilà.
D'accord, très bien. Bon, alors, sa réponse, c'est vrai, à une partie du problème. Mais le deuxième problème, j'ai envie de dire, c'est que, ok, t'as du coup bien avancé dans l'aventure. Et alors, on veut ton avis, Falux. Qu'est-ce que tu penses de Zelda Skyward Sword ?
Alors, premièrement, je vais pas du tout spoiler hein, pour ceux qui écoutent. Donc,
on te remercie.
Je vais pas du tout parler du scénario et des choses comme ça. Tout d'abord, je vais énumérer les points forts. Hein. Donc, d'abord, il y a les fans de la série. Je suis certain qu'ils vont adorer le jeu parce que Nintendo a placé énormément de clins d'œil pour les anciens épisodes. Donc, si vous avez joué à Spirit Tracks, si vous avez joué à Wind Waker, si vous avez joué à Twilight Princess, si vous avez joué à Ocarina of Time ou Majora's Mask, il y a des éléments que vous allez retrouver à l'intérieur qui vont vous faire plaisir de Enfin, ça va faire plaisir de les revoir. C'est en somme un espèce de best-of.
Ouais, mais alors attends.
Tous les Zelda 3D que j'ai eu jusqu'à maintenant.
Est-ce qu'il n'y a pas une limite entre clin d'œil et recyclage ? Est-ce que...
Non,
c'est vraiment du clin d'œil ? Bibi, est-ce que tu as vu un peu de ça ou pas ?
Alors, j'ai vu, ouais, surtout dans les dialogues qui sont excellents, hein, soit dit en passant. Et ouais, il y a des petits clins d'œil dissimulés ici et là. Je ne vais rien dire, hein, mais c'est juste des petites pointes ici et là.
D'accord,
c'est vraiment juste... pour les fans, mais ça influe pas sur l'histoire ou le gameplay, ce genre de choses.
Exactement.
D'accord.
Ensuite, donc le gameplay, il est super réussi. Hein. Le Wii Motion Plus a ses défauts, comme sur Wii Sport. Mais on a les outils nécessaires pour recaler la calibration assez rapidement, lorsqu'il faut. Hein.
D'accord.
Donc parfois, on sent que ça va pas. Donc il faut juste appuyer sur un bouton et puis tout redevient directement bien. Il n'y a pas besoin de mettre... pause et puis poser la Wiimote comme on le fait sur les autres jeux par exemple. Oui,
donc il n'y a pas vraiment de problème de calibration en fait.
Si, enfin... si, ça arrive, hein, ça m'est déjà arrivé. Bon, c'est assez rare, mais quand ça arrive, ça pose pas énormément de problèmes.
Oui, parce qu'il y a le bouton.
Oui, et puis ça m'est surtout arrivé quand il fallait viser des choses en fait avec certains objets. Ça m'est jamais arrivé en fait en combat à l'épée.
Exactement.
Donc pour cette partie, franchement, c'était nickel. Hein. Mm-hmm. En tout cas pour moi et pour le moment.
Pour avoir une idée un petit peu, Falous, toi, t'as combien d'heures de jeu à peu près ?
En ce moment, je pense que je dois être environ à 10-12 heures.
D'accord. Sur 10-12 heures. Est-ce que tu serais capable de dire combien de fois tu as eu des soucis
avec non, disons une dizaine de fois.
Une dizaine de fois, ok. Une fois par heure.
Une fois par heure, bon. C'est pas
non ouais, enfin mieux. Bon.
Ça dépend
donc
quand
c'est
ça t'arrive.
C'est pas énorme. Hein. Ça pose pas vraiment beaucoup de problèmes.
Non, parce que c'est vite résolu. En fait, il suffit d'appuyer sur la croix directionnelle en bas et puis le problème est résolu. Donc, c'est pas vraiment. C'est pas comme s'il fallait poser la manette pour recalibrer le bordel comme dans Wii Sports, Resort ou ce genre de choses.
Mais alors du coup, est-ce que c'est pas la première fois qu'on a un souci quand même de maniabilité dans un Zelda ? Bon, mais aussi mineur soit-il, et c'est vrai qu'en contrepartie, c'est vrai qu'il y a une nouvelle maniabilité j'ai pas pu les tester, mais c'est vrai qu'il est assez génial. Est-ce que quand même, voilà, c'est pas un défaut quand même de se retrouver qu'un Zelda perfectible à ce niveau-là. Oui.
Voilà, ouais, c'est clair. Mais ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'on ressent énormément l'influence de Wii Sport Resort.
Ah oui.
On sent que Wii Sport Resort, c'est une espèce d'ébauche. Et puis, il y a plein d'éléments de gameplay, et ça fait un peu plaisir de revoir ça. Par exemple, moi, j'ai pas vu ces éléments dans les trailers, et puis je les vois, je me dis, ah, ça j'avais vu dans Wii Sport Resort, c'est assez sympa.
D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est bien, c'est sympa. Ouais. Bon, même si, du coup, il va y avoir peut-être un sentiment de déjà-vu à ce niveau-là, alors.
Non.
D'accord.
Apparemment, il y a beaucoup de surprises hein, qu'on ne connaît pas encore.
Ouais, il y a beaucoup de surprises.
Ah, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres points...
Donc, le jeu, il est très riche, hein, ça c'est clair.
Ah, d'accord. Bon. Bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres points alors qui t'ont beaucoup plu?
Le scénario, je dirais rapidement, il est touchant, il est très prenant et il contient une bonne dose d'humour. Ce qui est
ah,
super.
D'accord.
Petit clin d'œil à Wind Waker, voilà. Alors, au passage.
Ouais, un petit clin d'œil à Wind Waker, exactement.
C'est vrai que c'était pas vraiment dans Twilight Princess qu'on pouvait...
qu'on pouvait rigoler.
Non, c'est sûr qu'on se spoilait pas beaucoup. Hein.
C'est vraiment différent. L'atmosphère est différente de Twilight Princess.
Et moi, j'aurais juste une question à vous poser. C'est bon, peut-être que vous en êtes pas assez loin pour le voir, mais l'avancement, enfin, dans le jeu, quand, ça se fait comme de manière traditionnelle ou il y a quand même quelques petits changements par rapport aux autres versions.
Sans spoiler, hein.
Ouais, non,
c'est pas évident là. Hein.
C'est pas évident. En gros, c'est à peu près le même schéma qu'auparavant quand même. C'est exploration, donjon. C'est à peu près
d'accord,
pareil.
Il n'y a pas
même.
De bouleversement
non,
dans la structure.
Contrairement
du jeu.
À ce qui avait été annoncé au début du développement, où on disait tout sera chamboulé, machin, tout ça. Non, pas foncièrement. En tout cas, pas au niveau de mon aventure.
Ouais, parce qu'apparemment, les deux derniers tiers sont magnifiques, donc on verra bien. Peut-être que ça se chamboulera là-bas. Mais en tout cas, c'est pas comme un Majora's Mask, par exemple.
Non, oui, là, le système du temps était vraiment quand même assez innovant pour l'époque et pour la série. Là, on retrouve pas quelque chose d'aussi unique.
D'accord.
C'est juste. Donc, pour revenir sur ça, par exemple, le level design, hein, quand même, hein, ça, c'est quelque chose qui choque quand on explore. C'est plus la même chose. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir des immenses donjons où il faut trouver, il faut se frayer un chemin pour arriver au donjon. C'est plus comme avant. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait plaisir.
D'accord, ça ajoute à la durée de vie en plus, du coup. Alors.
C'est assez immense. C'est pas des, y a pas de plaine, mais les environnements sont assez immenses.
D'accord.
Ça fait plaisir à découvrir. Alors on se lasse vraiment pas du tout, hein, donc c'est la lassitude est quasi inexistante pendant qu'on essaye de se frayer un chemin jusqu'au donjon.
D'accord, tu confirmes ça, Bibi?
Je confirme, ouais. Même si bon, après, je sais pas comment ça va se tourner, mais pour le début du jeu, ouais, je suis assez d'accord.
D'accord.
Mm-hmm. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est que ce jeu... Pour moi, il a réellement un potentiel d'apporter beaucoup de nouveaux joueurs. Alors, j'ai personnellement essayé de faire jouer ma femme à plusieurs Zelda, mais sans succès. Hein, donc, elle croche pas. Donc, elle a joué à Donkey Kong, à Mario, mais Zelda, elle croche pas. Elle trouve qu'il faut trop réfléchir.
D'accord.
Et par contre, quand je lui ai donné... enfin, elle a voulu essayer Skyward Sword. Et puis, quand je lui ai donné dans les mains, elle a trouvé ça génial.
D'accord.
Donc, le gameplay plaît.
D'accord.
C'est un peu, c'est voilà. C'est...
Le fait que ce soit du coup du motion gaming, donc du jeu en mouvement,
c'est exactement
ça. Ça donne une accessibilité, tu trouves, voilà, au jeu et qui va permettre d'ouvrir la saga Zelda à un nouveau public.
Voilà. Mm-hmm.
D'accord.
Et voilà, maintenant j'aimerais arriver sur les points négatifs.
Ah là là.
Grâce à ça.
Ah là là.
C'est que le jeu n'est pas parfait pour moi. Il est pas parfait puisque il y a plein de clins d'œil pour les fans et tout ça, mais j'ai trouvé que les donjons étaient beaucoup trop faciles par rapport aux autres Zelda 3D.
Ouh là là, d'accord.
Alors, rien qu'un exemple, je cite, hein, sur les trois donjons, enfin sur les trois temples que j'ai fait pour le moment, il n'y avait pas de notion de niveau. Donc c'est tout une surface. La carte, elle est inutile. Donc on l'obtient et puis on se dit mais pourquoi je l'ai, ça me sert à rien de toute façon, il faut juste que je continue tout droit, je vois quelle porte. Donc voilà, c'est ça qui est dommage. Je sais pas, Bibi, toi, est-ce que t'as aussi eu ce sentiment pour les temples, que c'est trop simple?
Bah, c'est vrai que quand j'ai fait le premier temple, j'étais super surpris en fait. C'est seulement quelques salles, c'est assez linéaire aussi.
Voilà.
Et
très linéaire, c'est pas assez, c'est extrêmement linéaire.
Voilà, ouais. Après, j'ai trouvé quand même le tout bien agencé. Ça a une certaine ligne directrice que je trouve intéressante. Mais c'est vrai que on passe autant de temps à aller dans le donjon en fait qu'à le faire. Et ça, voilà. ça retire un petit côté qu'il y avait dans les autres Zelda en fait.
Alors moi j'ai l'impression qu'on passe plus de temps dehors à trouver le donjon que quand on est dans le donjon. Donc c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression. Ouais. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à essayer de trouver le donjon et tout, donc dans les différents environnements que quand j'étais à l'intérieur du donjon. Mais par contre c'est clair, il y a de très belles idées. Alors je critique pas du tout l'aspect créatif dans les donjons, il est là.
D'accord.
Il y a des changements par rapport à ce qu'on avait avant, mais c'est trop facile. Et j'ai l'impression que c'est pour pouvoir apporter des nouvelles personnes. Parce que, voilà, par exemple, Ocarina of Time, il avait la réputation d'être très dur au Temple de l'Eau. Mmh. Et beaucoup de personnes que je connais, hein, ils ont arrêté en fait, le jeu à ce moment-là. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est... Enfin, j'ai pas fini le jeu, j'ai juste joué trois temples. Mais pour le moment, pour moi, c'est vraiment... Le point faible, c'est que les donjons sont trop faciles. Et très linéaire. Donc on a juste une ligne, il faut juste la suivre. Il faut trouver une clé, il n'y a qu'une porte pour ouvrir la clé. C'est pas comme dans des donjons Zelda, en 2D, où en fait on prend une clé, mais il faut qu'on choisisse, est-ce qu'on va là, de toute façon. Donc il n'y a pas ce sentiment, c'est vraiment très linéaire.
D'accord.
Vous avez quand même joué 10 heures, c'est ça? Une dizaine d'heures.
Un peu moins, ouais, pour moi.
Donc voilà, apparemment le jeu prend tout son ampleur après ces 10 heures. Donc,
tu mets beaucoup d'espérance là-dedans.
Oui, voilà, oui, moi j'ai oui, beaucoup d'espérance.
J'en suis là justement, et puis j'ai hâte de finir le podcast pour continuer. Là je suis vraiment en suspense. Hein. Hier soir j'ai arrêté à 1h du matin pour aller au travail le lendemain. Et j'ai vraiment envie de continuer.
Alors justement, on va pas te retenir trop longtemps, mais alors, est-ce qu'il y a d'autres défauts au jeu?
Oui, alors c'est un défaut mineur. Hein. Alors moi qui adore les musiques, je trouve les musiques sublimes.
Mais tu m'as fait peur.
Tu m'as fait peur, ouais.
Ça surpasse très facilement Twilight Princess.
Ouais, c'était
Twilight
pas très
Princess,
difficile.
Il y avait assez de pauvreté quand même. Hein.
Oui.
Mais la musique pendant les phases de vol, donc ce qui est un peu comme l'océan sur Wind Waker. Ou les plaines d'Hyrule, par exemple en Spirit Tracks, ou sur Ocarina of Time, ou sur Twilight Princess. La musique, elle est belle, mais elle n'est pas autant épique, et puis je ne crois pas que ça va rester dans les annales, en fait. Voilà, moi j'attends toujours que cette musique, où on a la plus grande surface de découverte, elle soit la meilleure, et là, ce n'est pas le cas. Mais, parce qu'il y en a tellement. Vous verrez.
Et globalement, c'était hyper satisfait, non?
Oui, hyper satisfait. Alors, globalement, pour résumer, ce que je peux dire, c'est que je ressens exactement le même état d'euphorie que quand j'ai découvert Mario Galaxy 2. Donc, il est très fort.
D'accord, bon, c'est plutôt bon signe, en tout cas, de mon point de vue, puisque j'ai juste adoré Super Mario Galaxy 2. Mais...
Idem.
Ouais.
Bon, bah écoute, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Falux, je pense qu'on va pas t'en tenir plus longtemps et on va te laisser voguer à tes aventures. Mais avant, on l'a demandé aux membres, toi, quel est ton Zelda préféré?
Alors, j'ai commencé Zelda avec Ocarina of Time. Et puis, je crois qu'en 2 ans, je l'ai terminé 11 fois sur la 64. Donc, c'est clair que c'est mon Zelda, c'est le Zelda que j'ai le plus aimé. Il y a par contre, pour le charme, c'est Wind Waker.
Eh ben merci Falux.
Ciao.
Merci. Allez. Bye. Alors c'est une grande première hein, puisque Zelda est sorti en même temps qu'un nouveau Super Mario. Alors on va aborder malheureusement rapidement avec Crayo puisqu'on n'a pas vraiment le temps. Crayo, alors tes premières impressions sur le jeu?
Alors j'étais assez sceptique, j'avais même peur de jouer à Super Mario 3D Land vu la démo qu'on avait testée et tout ce qui se dit maintenant un petit peu autour. Et bien finalement je suis très content du titre. Car Mario n'est pas boudinet comme on aurait pu le dire. Enfin, ils ont un petit peu amélioré ça. Il reste quand même un peu plus lent que d'habitude, mais sur ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Les niveaux sont très très beaux. Le jeu est magnifique. Ça s'approche beaucoup de Super Mario Galaxy. Mais la 3D, moi, je trouve que, enfin voilà, c'est pas qu'elle me chagrine, mais j'aurais préféré mieux. Enfin, quand j'entendais Nintendo dire que ça allait être magnifique, qu'on allait voir des carrés qu'on ne verrait pas en 2D. Voilà, pour l'instant, j'en ai pas vu énormément. Donc voilà, sur l'aspect visuel, en tout cas, ce que je pense. Ensuite, il y a deux points négatifs. C'est que le jeu est assez facile. Même très facile, j'ai pas eu beaucoup de soucis pour choper toutes les petites pièces, ainsi que pour terminer le jeu. Et les musiques également sont assez pauvres, on va dire, pas beaucoup de nouvelles musiques, des musiques qui reviennent assez souvent dans les niveaux, ce qui est un peu chiant pour les oreilles, il faut dire. Et une durée de vie qui a l'air vraiment, mais alors vraiment, très 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 mauvaise. Il n'y a que 8 mondes en 2 petites heures, je suis déjà arrivé au quatrième monde, je crois. Donc voilà, après avoir fini le scénario, je pense que, enfin c'est même quasiment sûr qu'il y aura d'autres petits mondes à faire et même d'autres petits secrets à trouver. Mais je trouve ça dommage de se limiter à 8 mondes qui vont extrêmement vite et dont des niveaux qui sont extrêmement courts.
Aïe, aïe, aïe.
Donc voilà pour en gros résumer Super Mario 3D Land, donc qui est sorti aujourd'hui sur 3DS. Le test est actuellement sur Nintendo Master, donc vous pouvez aller lire pour plus d'informations. Et on reviendra plus en détail sur le titre dans les prochains podcasts où on parlera de l'icône de Nintendo qui est Mario. Donc voilà, un très bon jeu, peut-être un petit peu en dessous des Mario que l'on connaît.
Sinon, il y a d'autres sorties du coup qui sont un peu masquées, hein, il faut bien le dire.
Complètement masquées, j'ai
Alors
envie,
qu'est-ce
ouais.
qu'on a, Cryo?
Alors on a Need for Speed The Run, donc qui est sorti hier, donc jeudi, sur Wii et 3DS. On a également Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres. Donc lui, on espère que ça va pas trop lui faire de l'ombre, les deux grosses sorties qu'on vient de citer au-dessus. Donc qui est sorti aujourd'hui. Et Lego Harry Potter, année 5 à 7, qui sort sur toutes les consoles Nintendo du moment. Donc voilà, trois jeux dont la qualité est peut-être bonne, mais qui seront pas mal éclipsés.
Et allez, on passe aux questions des membres et avec une première question écrite de Extérion. Alors j'espère que je le prononce bien, ton pseudo. Pensez-vous qu'il soit juste que les 25 ans de Zelda éclipsent à ce point les 25 ans de Metroid? Alors quelqu'un a envie de répondre, Cryo?
Ouais, moi je trouve que malgré que Zelda soit la plus grosse licence, une des plus grosses licences de Nintendo, reconnue par les joueurs et la critique, je pense que non, ce n'est pas vraiment juste que Zelda pique un peu la vedette de Metroid, parce que Metroid c'est quand même une grosse licence, et Samus avait totalement droit à son anniversaire comme Link.
Tu partages cet avis, Bibi?
Alors je partage sur le fait que ce soit pas juste que l'un éclipse l'autre. Par contre, c'est vrai que là, ils fêtent dans les règles de l'art l'anniversaire de Zelda, pas comme Mario qui avait eu droit à un best-of un peu pourri sur Wii et c'était tout. Là, ils ont quand même fait des concerts aux trois coins du monde, on va dire. Ils ont fait le remake 3DS de Force Words. Ils ont lancé deux Zelda, Ocarina of Time 3D et Skyward Sword. Donc je pense que c'était peut-être un peu dur de jongler entre deux anniversaires comme ça, de faire deux organisations différentes. Et j'ai peur que s'ils l'avaient fait quand même, l'anniversaire de Metroid aurait été un peu bâclé à l'image de celui de Mario.
Et on enchaîne avec une question de Kome no Zelda, toujours écrite sur le site. Pensez-vous que la série de Zelda sera revisitée, mieux exploitée sur Wii U et 3DS? Cryo.
Alors moi je vais commencer par la 3DS. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a parlé, enfin Aonuma a parlé du nouvel épisode qui allait sortir sur 3DS. Donc il a dit que ça n'allait pas prendre les traits des épisodes sortis sur DS. Donc moi je pense, mais ça n'engage que moi, que Nintendo va nous sortir un Zelda 3D style Skyward Sword ou Ocarina of Time. Va prendre un Zelda en 3D comme ça, style Ocarina of Time. Moi je parie qu'ils le feront parce que la 3DS en a les capacités. Et Aonuma n'aurait pas précisé que ça n'aurait rien à voir avec les opus DS. Donc voilà, je pense que ça va être un épisode tout en 3D.
D'accord. Et toi alors, Bibi?
Bah, pour ce qui est de la 3DS, oui, je pense la même chose. Après, est-ce que ça revisitera comme c'était dit, ça, je sais pas. Peut-être avec l'effet 3D, mais je pense que ce sera, comme d'habitude, plus visuel qu'autre chose. Après, pour ce qui concerne la Wii U, on n'a pas vu grand-chose pour l'instant, seulement une démo technique. Faut voir comment ils iront exploiter les idées avec la mablette. Mais je vois pas un énorme changement. Grâce à la console, en tout cas, ce serait plutôt dans la structure du jeu lui-même que peut-être pourrait émerger des nouvelles idées, des nouvelles choses. Mais je pense pas que les consoles apporteront un énorme changement par rapport à ça.
Moi, je pense que la démo qu'on a vue à l'E3, faut pas trop y tenir compte aujourd'hui.
D'expérience, effectivement, hein, on en
Ouais,
avait
voilà.
déjà parlé avec la GameCube, hein,
Ouais.
faut vraiment pas se fier aux démonstrations techniques. Donc pas de bouleversement, ouais, dans la saga, a priori.
En tout cas, je pense pas, moi.
Est-ce que c'est pas le moment, quand même, de remettre un peu nouveau dans la saga?
Je pense qu'ils ont essayé avec Skyward Sword, on va voir ce que ça donne, mais apparemment, les premières heures de jeu... ne change pas vraiment la série.
Après voilà, on l'a vu, hein, Nintendo a mis 5 ans pour développer Skyward Sword, qui reste quand même un jeu Wii en SD. Est-ce que le pari de faire un jeu en HD, est-ce que le Zelda Wii U ne va pas arriver dans 6 ans, quoi?
Bah, ça, j'en ai très peur en tout cas, hein. Vu, c'est vrai, Twilight Princess et Skyward Sword ont mis 4-5 ans à sortir, en tout cas à être développés. Après, pour un support HD que Nintendo ne maîtrise pas forcément, vu qu'ils n'ont jamais fait encore, j'ai peur qu'on attende un petit moment. Hein.
Et puis moi, je pense que là, ils se concentrent énormément sur l'opus 3DS.
Allez, c'est l'heure de jouer avec notre saga préférée. Enfin, notre saga préférée, je m'emballe peut-être un petit peu. Mais en tout cas, avec la saga Zelda. Et on a un auditeur qui est là avec nous, c'est Ryuza. Ça va bien, Ryuza?
Bah oui, ça va bien, très bien, et vous?
Nickel.
Ah bah, ça va.
Nickel, nickel. Alors je te laisse entre les mains de Crayo qui fait le Nintendo Game cette semaine.
Voilà, le Nintendo Game donc qui va parler de Zelda. Donc le principe est ultra simple. Tu connais un peu Qui veut gagner des millions?
Ouais.
Donc voilà, tu auras une question avec 4 choix de réponse. Il faudra évidemment me donner la bonne réponse. Tu t'y connais un peu dans Zelda?
Un peu beaucoup même.
Ok, on va voir si tu es vraiment calé. Alors, première question. Dans quel Zelda Link parle-t-il hors CDI? Hors l'épisode sorti sur CDI. Alors, A, Wind Waker. B, Oracle of Season. C, Zelda 2 Adventure of Link. Ou D, The Legend of Zelda, donc le Zelda 1.
Alors, quand on dit qu'il parle, c'est avec le son, je suppose?
Avec le son, oui, avec sa voix.
Enfin, sous forme textuelle, hein.
Voilà, oui.
Ah,
bah, de toute façon,
parce
Link,
il me semble que dans Oracle of Season et Rock of Edge, je crois qu'il parle, mais je suis pas sûr.
Alors, c'est ton dernier mot?
Je suis pas sûr. Parce que dans le premier Zelda, c'est sûr que non, il y a juste des textes. Donc, il y avait celui-là, Oracle of Season et...
Wind Waker ou Zelda 2 Adventure of Link?
Dans Wind Waker, il me semble pas, et dans le 2, je crois pas non plus. Donc alors, c'est dans mon dernier mot, ouais.
Ok. Et bien, la réponse c'était Zelda 2 Adventure of Link.
Ah!
Où Link parle de manière.
Succincte, c'est Bibi, hein, qui est.
Oui, grand connaisseur de Zelda 2, hein. En fait, Link trouve un miroir sous une table et dit « J'ai trouvé un miroir, en fait. » Voilà, s'il n'y a que ça pour lui faire parler, en fait.
Oh là là, une phrase qui restera dans les annales parce que c'est la seule phrase que Link a prononcée.
Ouais, en 25 ans de carrière.
J'ai trouvé
J'étais
un miroir.
J'étais quasi sûr que dans les épisodes GB, il y avait eu un peu de parole dessus, mais non.
Bon, allez, tu peux te rattraper. Hein. C'est pas,
voilà,
c'est pas
il reste encore
allez,
deux
on
questions.
On y croit.
Donc après, après avoir parlé un peu de la virilité de Link avec sa voix, on va parler des donjons de Zelda. Donc, quel Zelda contient le plus de donjons? Réponse A, Twilight Princess. Réponse B, A Link to the Past. Réponse C, Ocarina of Time. Réponse D, Zelda Minish Cap.
Alors Link to the Past, il y en a beaucoup quand même. Dans Ocarina of Time, il y en a 9 si on compte le château de Ganon.
Ouais.
Je dirais A Link to the Past, comme ça par. Est-ce que c'est quand même l'un des plus longs. Ouais, je dirais A Link to the Past.
C'est ton dernier mot?
Oui.
Eh bien, c'est la bonne réponse. C'est A Link to the Past qui contient, Théox, combien de donjons?
12 donjons. Alors, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est ce qui est. C'est ce qui est annoncé.
Donc voilà, 12 donjons, donc. A Link to the Past, l'épisode ayant le plus de gros temples à faire. Donc voilà, ça te fait un petit point.
Bien galéré d'ailleurs sur celui-là.
Oh là, mais tout va jouer à la troisième question,
voilà,
alors.
Voilà, ça te fait un point. Donc la dernière question sera décisive. Et elle parlera d'Epona. Donc troisième question. Dans combien de Zelda Epona est-elle jouable?
Ah, jouable.
Donc réponse A. Un épisode, réponse B 2, réponse C'est 3, réponse D, 4 épisodes.
Alors j'en suis sûr, dans 3, je sais qu'il y a Zelda TP, on la joue. Dans Ocarina of Time et Majora's Mask, on la joue. Ça, c'est sûr, ces 3-là.
Il me semble pas une quatrième.
Il me semble pas qu'il y ait un quatrième épisode qui ait un Zelda, qui ait Epona. Je vais dire 3, et ça va être mon dernier mot, je pense.
Ah, bravo!
Donc tu es vraiment très fort dans Zelda.
Avec une petite erreur quand même.
Petite erreur, mais... Écoutez.
Oui, mais la question était quand même assez corsée. Hein.
Mention passable, on va dire. Non, mais en tout cas, Ryuza, merci en tout cas d'avoir relevé les questions de la série. Non, je pense que voilà, tu t'es plutôt bien débrouillé.
C'est très très bien débrouillé.
Je trouve aussi, ouais.
Et j'aurais pas fait mieux, en tout cas.
Et pour juste pour conclure, quel est ton Zelda préféré?
Le meilleur pour moi restera quand même Ocarina of Time, je dois avouer.
D'accord, il a vraiment la connaissance.
Ouais, comme beaucoup. Hein.
Il fait presque l'unanimité. Eh ben, merci beaucoup, Ryuza.
Bah, pas de soucis. Puis, on se revoit sûrement sur le Nintendo Master alors.
Exactement.
Ça marche.
Pas de problème.
Bonne soirée à toi.
Bonne soirée.
Ciao.
Et salut, bye.
Ciao.
Eh bien voilà, j'espère qu'on aura été assez exhaustif et qu'on aura un peu pu parler de tout. Hein. Forcément, j'imagine que vous aussi, vous avez des souvenirs vis-à-vis de Zelda. N'hésitez pas d'ailleurs à les partager dans les commentaires. Hein. Je suis très curieux, moi, personnellement, de voir un peu ce que vous... quel est votre Zelda préféré, qu'est-ce que vous retenez. Et si vous n'êtes pas d'accord aussi avec nous. Hein.
Il me semble qu'on a oublié le Zelda CDI, mais je suis pas sûr.
Je sais vraiment pas pourquoi.
Moi non plus.
En tout cas, voilà. Si vous avez, donc, si vous jouez en ce moment à Skyward Sword, on vous souhaite en tout cas un très bon jeu.
Merci à vous merci qui nous écoutez, hein, parce que au moins vous... Vous nous choisissez au lieu d'aller jouer à Skyward Sword, c'est gentil.
Puis alors Bibi, hein, pour ta première prestation, bravo, hein, t'as été...
Merci, hein, j'ai fait de mon mieux, j'espère
non,
que
non,
ça plaira.
Très bien parler de la saga.
Tu n'auras pas de bisutage.
Bon voilà, allez, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.
Ciao.
Salut à tous.